Dans le tempo, c'est l'épisode 62. On y va. J'ai choisi la version
énergique, courte,
très.
Oui, parce que tu sais, il y a eu des commentaires en me disant non, mais version courte c'est bien et tout. Alors je pense que je vais alterner comme tu le disais.
Ouais,
tu
mais
vois,
c'est ce qu'il faut faire.
Intro longue, intro courte.
Ouais, c'est ce qu'il faut faire. L'alternance ça a du bon. Hein.
Absolument. Ouais. Ça dépend dans quel domaine.
Même politique, c'est bien d'alterner.
C'est vrai, tu penses
peu. Ouais, je pense.
On peut en parler avec Flavien, il aime bien, apparemment, il s'intéresse à la politique.
Eh ben, c'est très bien, ça c'est.
Voilà,
c'est
on va parler en fait de politique, on t'avait pas prévenu.
Non, bah,
Fanny est refaite là, d'à côté.
Alors, tu votes pour qui?
Non, oui, on présente notre invité parce qu'on l'a cité dès maintenant.
Oui, allons-y.
C'est Archidaz.
Ouais.
C'est Flavien Berger.
Salut,
Flavien.
Salut.
Merci d'être avec
Comment
nous.
Comment tu vas?
Ça va bien, je sais pas qui regardait. Vous parlez
c'est pas qui regardait, on parle en même temps.
Tu peux...
Regarde là, c'est toujours mieux.
Qu'est-ce qu'il raconte?
Non, j'ai quand même pas indiqué qu'on est dans DLT, Daz. Qu'on souhaite la bienvenue évidemment à tous nos auditeurs, à tous ceux qui nous regardent aussi sur YouTube. On parle de musique tous les 15 jours dans cette émission. On aime recevoir des artistes et ça tombe bien puisque effectivement c'est un artiste qu'on reçoit, Flavien Berger. Il faut que je te présente rapidement pour ceux qui éventuellement ne te connaissent pas. Tu es auteur, compositeur, chanteur, tu réalises, tu produis, tu fais absolument tout en fait sur tes albums globalement.
Ouais, jusqu'à la partie technique du mix et du mastering et
tout ça. Tu te fais accompagner ?
Ouais.
Ouais.
Bah c'est super dur de mixer. Ouais. Enfin,
surtout quand c'est ses propres morceaux.
En fait, je pense qu'il faut avoir un tout petit peu l'esprit scientifique. Ouais. Pour ne serait-ce que comprendre physiquement ce qui se passe. Et moi, je bloque un peu à des endroits. Donc, ouais, et puis en fait, en effet, surtout ses propres morceaux, t'as raison, parce qu'il y a des trucs qu'on n'entend plus, comme si on avait eu le cerveau un peu creusé par les mêmes fréquences qu'on écoute, et on sait plus ce qui est intelligible ou pas, surtout au niveau de la voix. En fait, le mix, je pense que c'est hyper important dès que tu te mets à dire des choses qui sont censées être intelligibles, quoi.
Est-ce que ça te va si on dit que tu t'illustres dans de la musique électronique, format un peu chanson, pop, ça te convient globalement?
Ouais, c'est le jeu, je crois que c'est le jeu de ce cycle que je viens un petit peu de terminer là avec mes trois albums, c'est que j'ai essayé de faire de la pop, de la musique populaire qu'on comprend, qui fait pas trop foncer les sourcils, quand, genre c'est quoi cette forme de truc bizarre, qui est pas forcément la musique que j'écoute moi. Je suis un peu curieux de ce qui sort, je suis un peu curieux des musiques populaires qui ont un petit peu forgé les décennies passées, mais c'est la musique pop française dans ce moment, c'est pas la musique que j'écoute, quoi. Ouais. Donc, c'est aussi ça qui m'intéresse un petit peu, c'est que j'essaye de faire mon sillon là-dedans. Mais ouais, globalement, c'est de la pop française, quoi.
Tu as derrière toi. Alors, je sais pas comment elle est présentée. Il faudrait que tu nous dises, toi, quel terme tu utilises. Parce que t'as trois albums majeurs, entre guillemets, qui sont Léviathan en 2015, Contretemps en 2018, et puis plus récemment Dans 100 ans, en 2023. Mais t'as des espèces d'albums entre ces grands albums pour lesquels tu fais de la promotion, etc. Tu en parles beaucoup, tu les mets en avant. T'as aussi ces espèces de... Je sais pas, tu reviens un peu sur l'album précédent, mais d'une manière différente, t'offres un regard un peu différent. Comment t'appelles ça, des albums aussi? Tu vois, je pense à Radio Contretemps. Ouais.
Bah, c'est des albums. C'est juste que pour le jeu de la promotion, on dit que c'est un peu des contre-albums ou des albums miroirs. En fait, j'ai une manière de travailler qui est que je crois que je comprends maintenant aujourd'hui ce que c'est que ces contre-albums qui sortent tout le temps un an après le gros album. C'est que quand je fais des albums, je fais plein de morceaux en même temps. J'avance, tu vois, plein de pions. Et puis pour raconter l'histoire des albums principaux, ben il faut que j'en sélectionne certains. Ce qui ne veut pas dire que les morceaux qui sont pas sélectionnés sont pas aussi bien ou sont moins bien ou sont pas finis. C'est que c'est une autre histoire en fait. Il y a plein d'histoires qui corollaires, quoi. Et donc les morceaux qui n'ont pas abouti dans l'album principal, bah en fait, j'ai quand même envie de les finir et de les sortir. Et du coup, c'est ce qui donne souvent ces contre-albums. Donc, Contrebande 01, le disque de Noël, Radio Contretemps et Contrebande 2, le disque de l'été.
Qui est sorti il y a quelques jours et quelques semaines.
Ouais, vendredi, là.
Ouais. Enfin, on en parlera un petit peu.
Donc, c'est pas des phases B, c'est vraiment un
non.
autre...
Non, parce que phase B, il y a un truc un peu Peugeot, quand
ouais,
même,
genre,
qui est genre...
Ça a pas
c'était
fait le
pas
cut,
les
mais
singles, tu vois.
Il y a pas ce risque, un peu de dire, ouais, vas-y, que le public le prenne en mode, c'est un peu les chutes, tu vois, c'est genre.
C'est
ouais.
ça. En fait, c'est ça, les chutes, je comprendrais dans le sens où, par exemple, je pense que pour un film de cinéma, ce serait ça, c'est des scènes qui ont pas terminé dans le film. C'est impossible de faire un film avec des scènes qui ont pas terminé dans un film. Enfin, ça a dû arriver, mais c'est très rare. Or, en fait, des morceaux de musique, ben, c'est pas inclus dans une narration comme dans un film. Du coup, moi, en fait, pour mon dernier album dans 100 ans, j'avais plusieurs thèmes. Il y avait aussi un peu un thème qui était l'été, aller à la rivière, un truc un petit peu qui célèbre aussi la simplicité des rapports humains, de faire des trucs simples, faire des trucs qu'on kiffe. Et il y avait pas la place dans cet album-là. Et en fait, ça avait la place dans un disque spécialement pour ça, quoi. Donc voilà aussi, c'est quelle thématique je veux mettre en avant et comment je suis prêt à parler d'une thématique aussi. Par exemple, là, dans mon dernier album, j'évoque un peu l'idée du diable, mais j'ai mis deux disques à savoir en parler, ouais. Dans 100 ans, je parle du diable un peu, et encore un peu de loin, mais j'ai mis hyper longtemps à savoir comment je me positionnais par rapport au diable.
C'est faut dire que c'est aussi assez productif, parce que tu vois, à chaque fois qu'il sort un album, il sort tout de suite un album derrière un an après, et puis il y a aussi un peu de BO de film. Ouais. J'ai bien aimé d'ailleurs cette, que je connaissais pas, je t'avoue, avant de me pencher un peu sur ta discographie pour cette émission, De la Friche, une espèce de mixtape un peu lofi ambiante, j'ai trouvé très cool, mais je connaissais absolument pas ce truc. T'en parles peu?
Ça, c'est la musique, si tu veux, si on devrait utiliser le mot de naturel. C'est la musique que je fais le plus naturellement. C'est la forme que prendrait la musique comme elle sort vraiment assez rapidement de mon cerveau, sans beaucoup de retouches, sans différentes phases de production, sans beaucoup d'écriture, de paroles aussi. Il y a peu de paroles.
C'est quasi instrumental.
C'est quasi instrumental. C'est un peu, moi, la musique que j'écoute plus, tu vois. J'écoute beaucoup de musique ambiante. Je sais pas si c'est de la musique ambiante, mais on va dire que c'est un peu de la musique domestique, quoi. Genre Plantasia ou des trucs comme ça, où il y a des thèmes qui émergent, mais c'est jamais très grandiloquent. Voilà.
Et c'est marrant, du coup, pourquoi est-ce que, si cette musique-là, elle est naturelle pour toi, pourquoi tu t'en éloignes dans ta production majeure?
Bah parce que je pense qu'il y a une idée d'exercice avec les albums, qui est que la musique, quand on m'a dit bon bah là tu peux faire ton premier album avec mon label Pan European, j'avais déjà sorti deux maxi. Je me suis dit ok, let's go, il y a un truc à raconter, il y a une exigence formelle à atteindre. Et donc, je me suis un petit peu mis la pression pour me dire, ok, faut que je réussisse à faire des morceaux qui ont un peu des structures classiques, avec des couplets, des refrains. Non pas dans une velléité de succès ou quoi, c'était plus
respecter un
exercice. Faut que j'y arrive. Faut que je vois si je suis capable de faire ça, quoi.
Est-ce que ça te fascinait?
Ouais, un peu, ouais. Il y a dans l'idée de la pop, il y a un truc quand même un peu. C'est un peu une quête, quoi.
Et c'est quoi qui te fascine derrière ça? C'est le fait de toucher beaucoup de gens?
Disons que dans le mot pop, ça induit le fait que ce soit populaire, donc que ce soit connu, donc ça touche beaucoup de gens. C'est vrai que généralement, on parle de pop une fois que c'est connu. On parle peu de pop pas connu, ça serait un autre mot. Mais c'est bizarre.
Expérimental.
Ouais, tu vois, alors que c'est juste peut-être de la pop qui a pas marché.
Mais de la non-pop, du coup.
Mais en effet, je sais pas pourquoi cette musique, elle existe, celle que je fais, naturellement, comme De la Friche. En fait, je passe beaucoup de temps à composer, à faire des cassettes chez moi, que je trie, que je sélectionne. Disons qu'il y a une librairie de musique en mouvement tout le temps, moi, dans ma vie, que même mes proches peuvent écouter. Mais celle du disque, je sais pas, c'est une histoire commune qu'on fait avec mon label. On a envie de raconter un truc un petit peu qui vaut la peine d'être écouté. Et donc, mettre les bouchées doubles sur les formes, quoi.
Mais du coup, tu te dis pas des fois que ce que tu donnes à voir au public, c'est pas réellement qui toi tu es Non, mais il n'y a pas de...
Je vois ce que tu veux dire. Non, je crois que c'est moi aussi.
C'est juste une autre facette, quoi.
Mais ouais. Puis elle existe, cette musique, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'elle sort pas forcément qu'elle existe pas. Je sais en mon fort intérieur que c'est aussi ce que je fais. Disons que ce serait, je vois ce que tu veux dire, ce serait qu'il y aurait un mot un peu plus cosmétique qui serait celui des grands albums qui
ou que même toi, d'un point de vue personnel, comme on parle souvent quand on parle de la musique d'authenticité, de spontanéité, et qu'on a tendance à dire oui, il faut pas trop calculer. Alors que c'est faux, c'est une industrie, tu vois. Donc
ouais,
c'est normal,
c'est
aussi d'avoir des plans de bataille, tu vois. Mais te dire que à un moment donné, peut-être que les gens, ils t'apprécient, parce que souvent, t'as un rapport en plus très intime à la musique. C'est-à-dire que tu vas écouter un morceau, tu vas aimer le morceau, et du coup, par rebond, tu vas aimer l'artiste. Est-ce que toi, tu peux te dire à un moment donné, putain, les gens, ils m'aiment pour ce que je suis pas réellement,
Vois. Non, je vois. Il y a souvent ce truc, je pense que certains artistes ont dû vous le dire. Parfois, il y a des gens qui viennent te parler d'un morceau.
Ouais.
Et tu te dis, ah, mais t'as ce genre de gens. Ce morceau-là de moi. Alors que j'aime tous les morceaux que j'ai faits, tu vois. Ouais. Mais c'est juste que tu hiérarchises un petit peu, parce qu'en fait, tu vas chercher aussi de l'inconnu dans le public qui t'écoute. Enfin, c'est un autre truc. Mais ce que je voulais dire, c'est que je crois que moi, je veux questionner la notion d'authenticité en musique. Je trouve ça super intéressant qu'on parle d'une musique qui serait authentique et une musique qui serait pas authentique. parce que plus j'y réfléchis, plus je crois que dans tous les processus musicaux, il n'y a jamais de moment où quelqu'un n'est pas sincère quand il est en train de faire un truc. Mmh. Donc on a l'image de la musique commerciale où il y aurait par exemple des DA qui diraient il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, mais je crois que même dans ces contextes un petit peu artificiels de la musique de major ou quoi, chaque personne qui fait son travail au moment où il le fait, s'il n'a pas l'enthousiasme de kiffer ce qu'il fait, ça n'existerait pas, je crois.
Oui, oui, veut... oui, oui, oui.
Après, il y a parfois des produits quand même.
Mais même ça, en fait, ouais. dans le chemin qui mène au produit, je crois que. Je vois pas. J'aimerais bien voir ce qu'on appelle une musique pas authentique.
J'ai déjà pris cet exemple dans le podcast, mais par exemple, René Latope, tu penses qu'il y a une forme d'authenticité?
À chaque fois, il est sur
René Latope.
Attends, il faut que je mette René Latope. Tu en parles à chaque fois.
Crazy Frog.
Vas-y, vas-y.
Crazy Frog. Moi, je suis sûr que la personne qui a fait ça était à donf, et en fait, ça l'a dépassé, mais. Crazy Frog, en fait, le problème, c'est qu'on l'a trop entendu. Mais ouais. C'est pas au moment où ça a été fait. C'est pas authentique.
Il y avait une forme de candeur, tu penses, c'est un vrai plaisir.
Tu vois, genre même, Benny Benassi, tu vois, genre, ouais. Hyper kiffant, au moment où il a dû faire ce track, il devait être comme un fou, et il devait y avoir de l'enthousiasme, et après, ça a été marketé, et puis c'est devenu, et donc, peut-être qu'après, dans l'étape, il y a quelque chose de pas authentique qui est, on va mettre des billets pour qu'il y ait des affiches partout, on va le faire passer en radio tout le temps, tous les trois passages, il y a ce morceau-là.
Ça c'est sur l'aspect, plus marketing du produit, mais, justement, quand on parle de produit, notamment, tu sais, avec les méthodes de production moderne où souvent le truc c'est un peu du travail pas à la chaîne mais en tout cas très haché avec une personne qui s'occupe des refrains, des top lines, des machins, des trucs et où à la fin tu fais un genre de Lego par exemple
surtout dans l'industrie américaine
oui, ouais,
qui existe aussi dans certaines mesures en France mais moins quand même
tu vois sur les tracks de Rihanna par exemple ou ce genre de mégastar où en fait ils ont une armée de gens qui interviennent dans le processus créatif et où du coup tu peux te dire une fois que t'enlèves les épluchures enfin les pelures tu vois du fruit qu'est-ce qui reste au bout tu vois une fois que t'as 12 personnes qui sont intervenues sur un projet et que forcément ça l'a orienté aussi tu vois peut-être que le produit final correspond pas forcément à l'intention de départ. Ça marche aussi,
je crois pas.
Ah, toi, tu penses que...
Non, parce que si à un moment ils se mettent à 12 pour faire un morceau, c'est que l'intention c'est de faire un morceau à 12.
Ouais.
Et que du coup, si Rihanna c'était une songwriter et qu'il lui fallait juste un piano et qu'elle racontait, elle le ferait comme ça, je pense que leur forme va avec leur intention. Mmh. Et du coup, ça prendrait une autre forme si ça devait prendre une autre forme. Tu vois, je crois que les formes épousent les intentions, quoi. Et encore une fois, tu vois, il y a ce truc où tu imagines un peu un producteur qui
avec le cigare et
ouais, mais au moment de la création, je crois pas que ça existe, je crois pas qu'il y ait quelque chose de une espèce de tu vois de fourberie dans la création quoi. Mais j'aimerais bien voir qu'on me prouve le contraire. Mais
écoutons René Latope,
ah oui, René
Latope, si tu penses qu'il y a de l'authenticité derrière.
On fait vraiment ça là.
On fait vraiment ça.
Pas mal le reggae.
C'est un truc pour enfants.
Oui, on peut dire ça comme ça. Mais
oui.
c'était un peu de tube sur le moment quand même.
Ce qui me plaît chez toi, c'est ton petit bidon. Tes petits poignets d'amour, je trouve ça trop mignon. Même si les sautants la rue.
Est-ce que tu pensais qu'on écouterait ça un jour dans DLT d'Az Merde?
Quand tu me prends dans tes bras.
Bah alors l'authenticité Flavien, dis-nous.
Ouais. Non, franchement ça va, tu vois.
Ça va. Un petit riddim sympa quand même.
Ouais, mais encore une fois, on se pose la question de l'autre. Non, mais en vrai, regarde, je sais pas qui a fait ça, mais par exemple, t'as ton filleul ou tu vois le frère de ton voisin qui dit ah, toi t'es dans la musique, t'es journaliste, je peux te faire écouter ce que je fais. Il te fait écouter ça, tu te dis pas ce mec manque d'authenticité, tu vois, t'es pris. Ça,
non, je me dirais qu'il a vraiment pas mauvais goût.
Ouais, tout dépend de comment il t'arrive. Là, je sais pas, t'as sans doute la vidéo, c'est sans doute 8 milliards de vues et du coup, t'es genre, ouais, c'est un produit. Mais pareil, je pense que dans le processus de ce qui a été fait ça, à part peut-être une petite appropriation culturelle au début et quelques...
Sur le reggae.
un peu reggae.
Les quatre accords qui marchent dans la pop musicale depuis 100 ans, mais Je sais pas, ouais, bon, peut-être René Latope.
C'est bon, j'ai réussi à faire plier Flavien Berger, il admet. Comme
ça. Bon, pardon. Je suis content d'avoir écouté René Latope.
C'est vrai, ouais. Je suis content d'avoir fait découvrir René Latope.
Ce que j'aimerais bien, c'est que tu le fasses écouter à chaque épisode, en fait, et que je le sache pas. Ah, et que tous les épisodes de ce podcast, tu fasses écouter aux gens.
On peut peut-être mettre en générique. Ça devrait devenir le générique de DLT. Ouais.
Comme ça, tu te fais striker tes vidéos pour des bonnes raisons.
C'est absolument voilà.
Intéressant.
Bon, cette intro est partie un peu dans tous les sens, mais je pense que ça démontre que. Déjà, c'est un truc qui m'a marqué en regardant d'autres interviews, etc., de toi, c'est qu'il y a une forme de recul sur ta pratique. T'aimes en parler, en tout cas, de ta façon de faire de la musique, parler de ta musique tout court, même.
Ouais, bah, je pense que c'est un peu réfléchi. Après, moi, je suis un peu privilégié, tu vois. J'ai fait des études, j'ai eu le temps de réfléchir, j'ai sorti mon premier disque à 27 ans. Tu vois, je viens d'un milieu bourgeois où on a un peu de réflexivité, on a le temps de réfléchir. Donc, je pense que là-dessus, et puis j'ai fait des études qui m'ont aussi appris à, j'ai fait des études de création industrielle, de design. Donc, ça m'a fait aussi un peu apprendre à parler de ma pratique, la culture du projet, comment tu passes d'une étape à une autre, tout ça. Donc, puis en fait, en vrai, quand on j'aime bien parce que parler de la musique, c'est parler de la musique des autres ou parler de d'autres arts. Et souvent. C'est super enrichissant, quoi.
En parlant de musique des autres, je termine quand même de te présenter en disant que tu collabores aussi régulièrement avec des gens. Il y a des collaborations avec Rhône, Pomme, Etienne Dao, Bonnie Banane, Moodoid. D'ailleurs, le troisième album de Pomme, tu le co-réalises avec elle, si je dis pas de bêtises.
Ouais, c'est ça. Consolation, je l'ai co-réalisé avec elle, exactement. C'est elle un peu qui était le pilote du bateau, on va dire. Mmh. Moi, j'étais copilote. Mmh. Donc, j'ai aidé à, des fois, pas sortir, enfin non, le bateau ça marche plus, il y a plus d'histoire de route, je suis niqué avec ma métaphore.
Il y a des voies maritimes.
Ouais, voilà, bon, garder les bonnes voies maritimes, pas s'endormir, prendre parfois la barre quand elle a besoin de dormir, enfin des trucs comme ça, quoi.
Très bien. Je vous propose de rentrer un peu dans le vif du sujet avec cette première partie autour de l'identité artistique. Ça nous permettra de découvrir, enfin écouter tes morceaux, parce qu'il est temps quand même, de voir ton évolution, que tu nous parles justement avec ce recul, cette réflexivité qui te caractérise. Eh bien, voilà, essayer de comprendre un peu comment tu t'es formé en tant qu'artiste. Est-ce que tu as trouvé une recette?
Désolé, j'ai René Latope dans la tête. C'est horrible.
Écoute, je suis content, j'ai réussi moi.
La perfusion, quoi. Je vais avoir toute l'émission.
Écoute, ce qui me ferait plaisir, c'est que tu le mettes en playlist en rentrant, comme ça, et que tu l'écoutes régulièrement.
My God.
Et tu m'écris un petit message dans deux semaines avec du recul. Tu me parles de l'authenticité dans ce morceau, ouais. Tu vois.
C'est vraiment impénétrable, quoi.
J'imagine que tu pratiquais la musique auparavant, mais on commence à t'identifier avec deux EP en 2014 et 2015, qui sont Glitter Gaze et Mars Balnéaire. 2013 et 2014, pardon. On peut s'écouter. Est-ce qu'il y a des morceaux qui te plaisent de cette période? T'es encore à l'aise avec ça? Qu'on pourrait écouter, par exemple?
À fond. Ce que tu veux, toi, dans les disques.
Ouais. Bon, peut-être commencer sur Glitter Gaze parce que déjà on t'entend chanter en anglais, ce qui est pas courant. Enfin, aujourd'hui vrai. En tout cas, tu ne le fais plus.
C'est vrai.
Il me semble que c'est d'ailleurs sur.
Il y avait une raison pour ça ou. Un kiff
Pourquoi chanter en anglais? Parce que c'est comme ça que ça venait et je crois que j'avais pas le jus encore d'utiliser les mots français pour raconter des trucs. Là, je suis encore dans une espèce de sample de musique imaginaire où, en plus, ce que je dis, je crois qu'il y a des fautes d'anglais.
Ah merde!
Mais du coup, je raconte que, en fait, ce premier EP, il s'appelle Glitter Gaze et c'est trois morceaux qui commencent tous les deux par GG. Mm-hmm. Glitter Gaze, Gilded Glaze et Golden Glance. Donc, tu vois, on est dans des concepts un peu d'assonance comme ça, et dans Glitter Gaze je raconte que je suis perdu dans gaze, c'est quoi, une contemplation pailletée, et je suis comme dans un labyrinthe, et donc c'était un peu, en fait c'était de la musique psychédélique mais sous forme un peu métronomique, tu vois, comme du crotrock mais un peu plus boosté, quoi. Ça c'est 20 minutes.
C'est vrai que ça, c'est un truc qui caractérise
les morceaux longs.
Ouais. Et tu le fais encore aujourd'hui, tu te le permets. Ouais. Même dans 100 ans, il y a le morceau éponyme qui dure 15 minutes.
Ouais,
je crois,
c'est ça, exactement. Ouais.
Contre-temps aussi qui dure un quart d'heure. Hein.
Ouais, pareil. Ouais. Et Léviathan aussi.
Ah là là.
c'est le tricks, en fait. C'est les morceaux éponymes du disque, c'est les morceaux longs du disque.
Enfin, morceaux longs, du coup, là, en l'occurrence, sur Glitter Gaze, les morceaux courts, ils font quand même 7 minutes.
Ouais, j'avoue.
Ça va. Je
me permets d'avancer un peu, alors, comme c'est 19 minutes.
Bien sûr.
Pour qu'on découvre un peu plus.
Ça, en fait, c'est né d'un... Ah, peut-être que vous l'écoutez, pardon.
On écoute un tout petit peu.
Ok. C'est dans deux minutes.
Alors, je me pose la question, est-ce que j'avance ou pas? Allez, je m'avance.
Ouais, avance un peu.
C'est pile le bon moment. Bon, on voit en tout cas que ça évolue, que c'est progressif. C'est un truc qu'on retrouve d'ailleurs dans ta musique encore aujourd'hui. Je trouve qu'il y a eu une évolution esthétique claire, avec des sonorités moins électroniques quand même aujourd'hui, plus acoustiques notamment sur les batteries, etc. Là où t'es vraiment...
En fait, ce que j'aime bien avec ce EP, c'est que c'est comme c'est pas très bien produit, ouais. Dans le sens où, tu vois, j'ai jamais utilisé de compresseur, de sidechain, de trucs comme ça qui font un peu la marque de la musique des années de 2010. Finalement, ce qui était un peu le côté un peu pauvre, je pense, de la prod, qui était que tu le mettais un peu à fond dans un club, ça sonnait pas hyper bien. Ouais. Ben, en fait, je trouve que c'est quelque part ce qui vieillit un peu mieux, dans le sens où ben, ça redevient des boîtes à rythme un petit peu cheap. On n'est pas dans le lo-fi, mais quand même, on est un peu dans un truc un peu... Et donc, en fait, ça... C'est pas marqué concrètement de 2015, quoi, 2014.
C'est vrai, ça.
Donc ça vivra mieux, en fait. Ça vieillira mieux.
En tout cas, je pense que c'est moins...
Ça sera moins plaçable dans...
Plaçable, voilà, dans une époque, quoi. Ouais.
C'est moins d'un an après, tu sors donc Mars Balnéaire, sur lequel il y a notamment un morceau qui va bien marcher, à ma connaissance, qui est Océan Rouge, et qui préfigure un petit peu plus la formule que tu développeras, que tu affineras avec le temps derrière. Ça, on s'écoute un extrait aussi?
Yes. Allez. 12 minutes, je crois, Océan Rouge.
13:47.
Ouais. Ah, une intro, elle est méga longue.
T'aimes bien les intros en vrai, c'est un truc qu'on retrouve
de fou.
Énormément sur tes
intros. Ouais, c'est vrai, et je me suis calmé là dernièrement.
Ouais. Ouais. Et notamment, t'aimes bien trancher un peu dans tes intros. C'est-à-dire que, avant qu'on arrive vraiment sur la mélodie finale, sur les sonorités, etc., tu nous fais un truc un peu qui a rien à voir, plus ambiante souvent d'ailleurs.
Ouais.
Et puis ensuite, tu pars vraiment, quoi.
C'est la matière, ouais. Et il y a un effet comme ça aussi que j'aime bien faire, et je sais pas si ça a un nom. J'ai cherché même dans les noms, tu vois, dans le Wikipédia, des noms pour définir la musique en italien ou quoi, genre, tu vois, piano, lentissimo, tout ça. Mm-hmm. C'est quand t'envoies un truc très, 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 très fort, puis que tu cut, et puis que tu remets.
Ouais.
Il y a pas de nom pour ça. Enfin, j'ai pas trouvé de nom.
Ok.
J'aimerais bien que si ça existe, qu'on le mette en commentaire de cette vidéo.
Ouais. L'appel est officiel. Regarde la caméra. Bon, j'avance un petit peu. Est-ce que ouais, tu disais que t'arrives encore à écouter facilement ces morceaux, tu te dis pas c'est trop loin,
non. Ah, Dieu me préserve de ça, de pas kiffer la musique que je fais ou que j'ai faite. Non, je crois que on parlait justement, tu disais qu'en fait donc moi j'ai sorti cette musique parce qu'en fait j'ai rencontré un label, quoi, Pan European Recording, un label indépendant.
Ça se passe comment? Parce que tu faisais de la musique dans ton coin quand même. Ah, tu rencontres ces gens et tu mets à release vraiment. Enfin,
Alors ouais, je fais grave de la musique dans mon coin. C'est ma pratique un peu perso. J'ai 3 potes qui écoutent. J'ai un MySpace où je fais des concours de remix sous un faux nom. Enfin, ça va un peu dans tous les sens. Mais j'accumule beaucoup de matière. Ça fait en 2014, ça faisait 4 ans que j'avais un ordi, tu vois, et que je faisais de la musique sur mon ordi. Et donc moi, j'ai un collectif à ce moment-là, collectif Scene. Où on fait, à l'époque on est 4 gars, aujourd'hui on est 12 personnes qui font plein d'autres trucs différents. Et on est en école d'art et on fait des installs où un peu à la Namjoong Pai, qu'on fait passer du signal son dans des vidéos, dans des télé cathodiques. Mmh. Et du coup, ça fait des installs où on regarde le son et on fait un petit peu des allers-retours comme ça entre des signaux son, signaux vidéo, signaux lumineux, tout ça. Et par bouche à oreille de Paris, un peu, on se met à faire une install pour un groupe, pour un concert. Et ce groupe, c'est KFTP, Kill for Total Peace. Okay. Et donc, ça, c'était un groupe qui sortait sa musique chez Pan European. Et donc, il a fallu un moment aller chercher notre argent de notre install dans les locaux du label. Et moi, c'est la première fois que je rencontrais quelqu'un d'un label, clairement, de label de musique, tu vois. Et donc, à ce moment-là, moi, j'ai fait une petite enveloppe avec une carte SD, avec genre une cinquantaine de morceaux dans tous les sens, des petites images, des petits trucs, et j'ai fait un pack, quoi, ce que je faisais à mes amis à l'époque, genre, tiens, de la musique, t'en as pour 20 heures, tu vois. Et donc, j'ai filé cette enveloppe à Arthur Péchaud, le mec qui a fondé ce label-là, pour dire, bah voilà, moi, je fais de la musique, si ça t'intéresse...
Il y avait quand même cette démarche de potentiellement chercher...
Ouais, c'était un peu un rêve de genre...
Tu voulais en vivre ?
Graver... j'étais loin de l'imaginer.
Pour ça, ça.
Ouais, non, non. Justement, privilège. J'étais pas en train de me dire genre, ouais, je mets toutes mes billes là-dedans. Moi, j'étais prof dans une prépa, je gagnais mes ronds, tu vois. Et... mais j'en rêvais, mais j'étais pas en train de me dire cool, du coup là je vais peut-être sortir un disque. J'en parlais pas, quoi. J'en parlais pas. Et non, mon rêve c'était juste qu'il y ait une galette de vinyle, quoi, avec ma musique gravée dedans. Une fois dans ma vie, c'était genre, tu vois. Et donc on a fait ça, on a sorti le premier maxi, on a sorti le deuxième maxi, et après on s'est lancé dans l'album. Et moi, c'est un an après la sortie de mon premier album que j'ai tout arrêté et que j'ai fait que de la musique.
Mais du coup, quand t'arrives, toi, tu dis que tu appartiens à un collectif. Mais toi, par contre, quand t'arrives dans le label, c'est ta musique à toi que tu
veux.
Ouais,
c'est ça. Ouais. Oui, parce qu'on faisait de la musique avec le collectif, mais beaucoup moins que moi. Et moi, j'avais vachement abouti une esthétique ou en tout cas un. Tu disais quoi, un vocabulaire? Enfin, je sais pas.
Je sais pas si c'est ce terme, mais ça me plaît.
Mais j'avais mes propres.
T'avais ta patte à toi, en
ouais,
fait.
Genre, j'étais le Zikos du collectif, si
d'accord,
tu veux.
Okay.
D'ailleurs, parce
Zico.
Que.
Ça marche aussi.
Le Zico, Zico des Zikos.
Un Zico des Zikos, c'est très bien.
Zical.
Zical.
Zical des Zikos.
Ouais, je sais pas. C'est parce que. C'était une évidence, la musique, parce que tu parles là de groupes un peu pluridisciplinaires, si je comprends bien. Mm-hmm. Je sais que toi, t'aimes bien toucher un peu à tout, y compris dans le cadre musical d'ailleurs. Tu touches un peu au graphisme autour de tes projets, tu montes aussi parfois un peu les clips. On pourrait même relier ça, je sais que t'aimes faire du savon avec... il produit du savon,
du savon.
Flavien, absolument.
D'accord.
Enfin, y a un désir globalement d'être dans une forme d'artisanat et de toucher à différentes choses, etc. J'ai l'impression chez toi. Mais pour toi, ça a été... Et évidemment, c'était la musique qui prenait le dessus sur tout ça.
Ouais, ouais, c'est ça. Exactement. En fait, c'est la musique qui a pris le dessus par la force des choses. Par patience aussi, je pense. Mais moi, je suis un gamin qui aimait dessiner. Donc, t'étais celui qui était... Toi, vas-y, qui dessine, fais un dessin pour machin, là, c'est son anniversaire. Donc, tu dessines. Et en fait, à un moment, tu dessines parce que les gens te disent que tu dessines un petit peu aussi. Parce que les gens projettent de toi que t'es un artiste. Les gens, tes parents, tes amis, tes trucs... Et puis en fait, j'ai quand même été assez appelé assez vite dans l'expression musicale avec une PlayStation. J'avais un jeu vidéo qui s'appelait Musique 2000.
Tu sais qu'on en parle, ça revient très régulièrement dans cette émission des gens qui ont commencé avec Musique 2000 ou EJ ou des choses comme ça. Ouais. Ça a initié plein de gens.
EJ, c'est assez différent parce que EJ, en tout cas EJ 1 et 2, tu pouvais pas composer. Tu prenais des samples et tu les mettais, ce qui en fait était assez
limitant.
Limitant. Alors que Musique 2000, c'était vraiment une DAW, tu vois. C'était t'as une banque de samples de Musique 2000, tu pouvais même sampler. Bon, vous en avez déjà parlé plein de fois, mais tu pouvais sortir ton disque. Enfin, c'était un moment, tu sais, les moments où les scaphandres, ils sortent de la station Mir et ils sont dans l'espace, ils sont même pas accrochés. Ouais. Bah, c'était ça pour moi. Tu sors ton disque de jeu vidéo et il y a plus de disque de jeu vidéo dans ta console et elle tourne quand même toute seule. Tu mets un CD, tu le samples, tu ressors le CD, tu remets le disque de vidéo. Ouais, ouais. Tu réintègres la station Mir. C'était trop beau, quoi. Et donc, tu pouvais sampler un tout petit peu avec des bitrates abusés, mais. Abusé bas, du coup il y avait très peu de place. Limite tu pouvais pas enregistrer ce que tu faisais sur une carte mémoire parce que c'était trop lourd. Bon, du coup voilà, mais j'ai très vite été appelé par la fabrication de la musique via cette interface, quoi. Par rapport à cette pratique, j'ai eu un ordi très tard. Donc en fait j'ai été très lent dans mon apprentissage musical, c'est-à-dire que j'étais très peu curieux, très peu curieux de la technique en fait, bizarrement. J'ai appris ce que c'était qu'une carte son et une table de mix quand j'ai rencontré mon pote avec qui on a monté le collectif Sine en 2010, tu vois. Donc avant ça, je savais pas comment enregistrer ma voix quasiment, tu vois.
Donc avant ça, tu bricolais juste.
C'est ça, c'est.
T'avais même pas genre instrument classique, un piano.
Pas de formation musicale.
Non, il y avait un piano chez moi que mes parents avaient acheté à ma grande sœur pour qu'elle apprenne le piano et qu'elle est partie et qu'elle a laissé chez mes parents. Et du coup, voilà, ça tapait un peu des accords juste avec les notes blanches ou juste avec les notes noires, mais jamais les deux en même temps, parce que trop galère à retenir. Mais j'ai jamais appris de musique, non.
D'accord. Musique. Tu considères que, tu me dis si je délire complet, hein, mais si tu t'es vraiment focalisé sur la musique, parce que pour toi, elle a alors peut-être elle te touche forcément plus, mais il y a une dimension aussi peut-être quasi supérieure de la musique, dans le sens où... une forme d'universalité ou en tout cas un truc où tu t'es dit putain c'est ça, ça c'est la forme d'art vraiment que j'ai envie d'explorer, tu vois. Est-ce que ça pour toi il y a une particularité de cette forme d'art?
C'est assez inquestionnable en fait. C'est quelque chose qui provoque. Enfin, la pratique de la musique est une des sources d'enthousiasme inépuisable dans ma vie, quoi. Fabriquer un morceau de musique, ça me crée des montées comme autant que peu d'autres choses, quoi. Donc, quand t'es devant quelque chose qui te semble être une évidence, en tout cas, pas parce que c'est bien ou parce que c'est pas bien, parce que en fait, pour moi, faire de la musique, c'est commencer des bidules et après, sur ces bidules, entendre des choses et courir après ce que j'entends. Et courir incessamment après une musique que j'entends et que j'arrive pas forcément à formaliser exactement comme je l'entends. Parce que c'est comme un rêve un peu, tu vois. Quand tu te souviens de tes rêves, c'est toujours assez...
Vaporeux, ouais.
Ouais, inagrippable réellement, tu vois. Ouais. T'as cerné le truc, t'as trouvé le mot, mais c'est pas exactement le bon mot, c'est... Enfin, il manque toujours des choses pour définir exactement ce que tu avais dans la tête. Et je pense que...
Et donc aujourd'hui, tu es toujours dans cette démarche-là, c'est-à-dire que ouais, les trucs que tu sors, ça ressemble à ce que tu avais en tête, mais c'est pas exactement ça et ça sera jamais en fait.
Bah, parce que c'est comme si, c'est comme la technologie un peu, c'est que plus j'apprends des choses, plus mon truc ouais. est HD, mais en fait, on va rajouter des pixels sans arrêt, tu vois. Parce que en fait... quand t'éclaires une nouvelle pièce, ben en fait, il y a une nouvelle pièce entière et que tu ouvres des portes. En fait, c'est sans fin.
Ouais, c'est sans fin.
Et
ouais.
En fait, pour moi, la trilogie dont on parle là, qui est quand même un mot un peu pompeux, la trilogie...
Tes trois albums un peu majeurs, oui.
Ça raconte ça, en fait. Ça raconte l'apprentissage de faire de la musique pop, en l'occurrence. Plus que parler du temps ou du temps qui passe ou les trucs qui ont été dits, que je comprends. Mais je crois que c'est des métaphores, chaque album, de moi en train d'apprendre à faire l'album que je suis en train de faire.
Ah oui, c'est très méta, ouais.
C'est archi méta.
D'ailleurs, t'as une particularité, mais on va s'écouter, on va passer à Léviathan, justement.
Je trouve qu'on est passé quand même très très vite sur la partie savon.
Oui, c'est vrai. Mais est-ce que c'est essentiel?
Non, mais ça m'intéresse.
Ça t'intéresse très bien.
Comment tu peux te dire, tiens?
On peut faire un cliffhanger et en parler à toute fin, puisque c'est vraiment tout nouveau dans ma vie, le savon.
Ah, ok, ouais. D'accord, bah oui.
On finit avec le savon. En plus, il y a un morceau qui s'appelle Sapon.
Ouais,
sur le tout dernier album, tu vois, on pourra en parler à ce moment-là. Enfin, bref, ça peut coller comme ça.
Je m'en rappellerai.
On se replonge en 2015 comme ça. Oui, on allez, compte sur toi pour nous rappeler qu'il faut parler de ça.
Ah, bien sûr, bien sûr. Je suis intrigué.
Ouais, Léviathan arrive. Est-ce que tu te dis à ce moment-là, bon, ok, j'ai eu deux EP qui sont pas si, ils se ressemblent pas non plus complètement. Ces deux EP dont on a parlé. Est-ce que tu te dis, j'arrive sur l'album, il faut que je me cadre un peu? C'est ce que tu te dis? Ou est-ce qu'il faut, que je trouve mon identité?
En fait, il y a un truc intéressant, c'est que entre mon album et mes deux premiers EP, je chante quand même pas mal dans Mars Banner et dans Océan Rouge et tout ça, mais il y a toute une partie de songwriting que Arthur, donc le patron du label Pan-European, il connaissait pas de moi, c'est-à-dire une partie de moi qui fait des chansons piano-voix, quoi. Et donc un truc un peu plus... chanson en fait et donc il y avait une
perspective en plus
c'est ça un nouveau élément de vocabulaire dans le disque et en fait pour moi le disque je l'ai pris comme ça et je l'ai pris comme ça pour les disques d'après, c'est-à-dire que j'ai plusieurs thèmes que j'entremêle et que ça raconte un peu une histoire globale. C'est pas un disque concept album où tu rentres, c'est parti pour une heure dans le voyage du disque, c'est pas ça, mais c'est plus que chaque morceau en fait parle, ont des trucs en commun et communiquent les uns avec les autres, voilà.
Parce que, si je dis pas de bêtises, avant même de te mettre à composer un album, tu t'arrêtes sur une forme de thématique ou de concept quand même.
Ouais, ouais, c'est ça. En fait,
j'ai une approche très intellectuelle quand même de la musique, non?
Étudiante, je dirais. Je m'arrête pas sur... Enfin, j'arrête deux ou trois thèmes, généralement. Et puis je les fais moirer comme ça, ce qui fait que ça crée des nouveaux thèmes, tu vois. Bah, Léviathan, c'est les abysses, quoi. Parce que j'aime bien l'idée d'un disque comme Exploration. Et j'aimais bien l'idée qu'on connaisse moins bien les fonds marins de notre planète que la Lune, par exemple, ou que l'espace. Alors qu'on est au-dessus, enfin, c'est vraiment notre vaisseau Terre. Il y a des trucs qu'on connaît pas, on sait pas y aller. Moi, j'aime bien cette idée-là. Tout comme moi, qui va plonger dans la Zikmu, quoi, et qui sait pas ce qui va en sortir. Et puis, il y a le disque, il y a le thème de, bah, le côté forain de la musique, divertissement, la fête foraine. Puis déjà, quand tu les mets tous les deux ensemble, ça crée d'autres thèmes, voilà.
Mais comment t'en arrives à ça? Pardon, d'assez peut-être, mais...
Non, c'est intéressant.
Parce que Alors certes, tu avais une pratique musicale depuis des années, mais tu vois, se dire, ok, moi quand je vais m'attaquer à des albums, je vais trouver quand même des concepts ou des idées que je vais faire s'entremêler, même si ça raconte pas complètement une histoire. Là, sur cet album, j'ai envie de plus faire des formats chansons, de plus chanter, etc. Ça sort pas de nulle part. C'est quelque chose que t'as construit sur le temps. Comment tu t'es forgé cette identité? Comment tu t'es dit, bah, ce que je vais proposer, c'est ça?
Dans le cas de Léviathan, c'est qu'en fait chaque morceau existait déjà sous forme de bribes quelque part. Je vous parlais des cassettes audio plus tôt. En fait, chez moi, j'ai comme des carnets, mais c'est des cassettes audio. Chaque fois que je bosse et tout ça, des fois, tlac, j'enregistre ce que je fais.
Encore aujourd'hui, tu utilises des cassettes audio?
Encore plus aujourd'hui qu'avant, en fait, parce que j'ai plus de thunes pour acheter des cassettes. Et avant, j'en avais plus, bah, je peux plus faire de cassettes, faut que je retrouve, faut que j'aille dans des
cassettes, même pas des ADAT ou des trucs, des cassettes.
Non,
des... cassettes
audio, stéréo, ouais. Ouais. C'est un peu le médium qui me suit depuis que je suis gamin, en fait. Et donc, en fait, j'avais ces bribes-là. Et donc chaque morceau existait pas encore vraiment. Maquette, j'aime pas non plus trop l'idée parce que dans l'idée, une maquette, ça voudrait dire que c'est pas fini. Or, ces trucs, ils auraient pu être finis, mais j'ai décidé de les pousser aussi. On a un morceau comme La Fête Noire, ou un morceau comme Léviathan, ou un morceau comme Vendredi. Tout ça, ça existait sous forme de morceaux un peu pas aboutis ou...
Et qu'ensuite tu intègres dans, quand tu commences à avoir une idée plus claire de ce que tu veux faire, tu dis ok, je vais retravailler toutes ces ébauches, ou en tout cas ces morceaux quasi finis, mais que je peux amener dans une autre direction qui correspondrait au tout que je veux créer. C'est un peu ça l'idée.
C'est ce que je racontais, c'est un peu tous les faders en même temps, ou tous les pions en même temps, et puis après il y en a qui marchent ensemble ou pas. Mais il y a aussi, ouais, il y a les, enfin bon bref. Il y a les mots aussi, il y a les mots qu'on met dans les chansons, quoi. Il y a des mots qui trouvent pas leur place jusqu'à un moment où boum, en fait, c'est dans ce mot, Léviathan, en fait, il arrivait hyper tard, ce mot. Le disque, il existait quasiment déjà, et en fait, ce morceau, Léviathan, il est devenu, c'est au moment où il me fallait une rime en temps. Parce que je voulais parler du voyage dans le temps, et du coup j'ai cherché des trucs, des trucs mythologiques de fond marin et tout, et puis en fait j'ai trouvé Léviathan, et puis en fait c'est voilà. Mais comment pas être trop chiant là-dessus, le truc c'est...
On a le droit d'être chiant ici.
Ouais, non mais en fait je réfléchis à qu'est-ce que... Je pense que c'était pas non plus réfléchi que ça, ouais. C'est juste que j'avais beaucoup de... En fait je crois que ce qui caractérise... ce début de pratique musicale, c'est le fait que j'avais beaucoup de matière, quoi. Beaucoup de matière. Bleu sous-marin, qui est un morceau du premier album, c'est un truc que j'ai fait sur PlayStation quand j'avais 17 piges.
Ah ouais,
donc,
d'accord.
Tu vois, t'as des trucs qui... Et c'est... Voilà.
Mais du coup, Bleu sous-marin notamment, du coup, tu l'as repris intégralement.
Ça y est, je pouvais enregistrer ma voix.
Oui, c'est pas l'export de la PlayStation directement.
Presque quand même.
Ah ouais.
Presque la basse et la rythmique de la batterie, c'est un bloc. Tu peux pas aller mixer séparément. Et après, moi, j'ai pu enregistrer ma voix, j'ai rajouté des trucs de synthé et tout. Voilà.
Alors, ce que je te propose, c'est qu'on écoute quand même quelques extraits rapides de Léviathan. On peut s'écouter La Fête Noire parce que c'est un peu le tube, entre guillemets, de l'album, celui en tout cas qui
a fonctionné. Le plus écouté de l'album. Ouais.
Allez, c'est parti.
À l'envers, attiré par l'extase, un tourbillon vert illumine les sirènes, le reflet des flambeaux dans du vomi turquoise. Le plus beau des voyages, c'est la fête foraine. Le plus beau des voyages, c'est la fête foraine. Oh, la fête foraine.
Là, je dis je chante faux et je chante faux.
C'est comme les cœurs qui disent cœur.
Ouais. Ça, ce track, on a failli pas le mettre. Enfin, moi, je voulais pas le mettre dans le disque.
Parce qu'on est sur autre chose là quand même.
Ouais.
Ça change après, tu me diras aussi. Hein.
Ouais, ça change vachement. Et en fait, c'est que c'était un peu un. Hein, on passe par plein de phases et tout.
Et après, on retombe sur du Flavien Berger tel qu'on le connaît plus.
Peut-être, mais ça, je m'en rends pas compte, tu vois. Ouais, c'est peut-être qu'il y a deux accords.
Bah, le côté rockabilly était étonnant au début, un peu,
ouais,
tu vois.
Ouais,
c'est
ouais,
vrai
ouais.
Que ça partait un peu en mode l'effort-banc.
Ouais.
C'est presque parodique.
Mais les inconnus qui font l'effort-banc.
Ouais. Non, mais ouais.
Les bidons d'huile.
Je sais plus comment il s'appelait, mais il y avait ça aussi sur le morceau d'avant, enfin, un morceau qu'on écoutait avant où ça ressemblait aux inconnus qui ont.
Non, mais les inconnus
Isabelle,
qui font voilà.
Les yeux bleus.
Non, mais en fait, les inconnus, c'est un truc de ouf parce que. Beaucoup de leurs tracks sont assez chambés. Hein.
Bah oui,
genre
en fait,
les vampires là.
Ouais.
Le track des vampires.
Les
rap tout. Ouais. Bête de track. La Zoubida façon The Cure. bête de track, et les mecs qui chantent un peu genre Indochine.
Ouais.
Vice versa. Bête de track. Ouais. Moi, je le mettais en DJ set.
Ouais. Mais non, mais parce qu'en plus, moi, enfin, la rythmique de ce morceau-là, justement, je l'avais entendu, tu sais, le truc un peu très carré.
Ouais.
C'était vraiment, donc, c'est marrant parce qu'il y a cet aspect-là où on a l'impression que tu te dis, vas-y, pour la déconne, j'y vais, tu vois. Et puis après, effectivement, on avance dans le morceau et.
Je mets un petit peu la suite. C'est vrai qu'on est complètement sur autre chose.
Ouais.
J'extirpe ma tête hors de nos.
En fait, il y a eu un moment. Pardon, j'arrive pas à écouter.
Laisse découvrir un peu les gens.
Du coup, il y a des plans de nous qui écoutons.
Ouais. Je suis seul avec.
Comme ça, avec l'air pénétré, tu vois.
Sous la surface de l'eau.
Ce que je tiens à dire quand même sur cet album, pour continuer un peu sur Léviathan, c'est que un truc qui restera, c'est que même si, alors là tu vois, t'as un format chanson assez clair sur ce morceau-là, on peut se mettre un extrait de Saint-Donatien qui est plus expérimental.
Ouais, carrément.
Et tu tiens à garder ça, j'ai l'impression, parce qu'on le retrouve même sur tes derniers disques, quoi, un extrait de Saint-Donatien. À aucun moment tu te dis je prends un risque en foutant un track comme ça sur mon album ?
Non. Ben non. En fait, je prends un risque en faisant de la pop, je pense. Enfin, vraiment, c'est l'inverse. C'est le risque, il est là, il est de faire un truc ni fait ni à faire dans une forme entendue. Alors que aller dans des phases comme ça, moi je.
Là, c'est plus toi, du coup.
Me délecte. Ouais. Mais c'est pas plus moi ou moins moi, parce que encore une fois, quand tu dis ça, il y a une idée un petit peu de comme si je m'étais un peu perverti à faire la.
Ouais.
Alors non. Que je crois pas, parce que je crois que je suis ce que je décide de sortir. Mais c'est à dire que ça, c'est de la musique. Enfin, disons que des formes un peu plus, un peu moins reconnaissables, c'est plus la musique que j'écoute, tu vois. Mais en fait, il y a un truc, j'en parle rarement, mais je crois que. Quand j'ai découvert la Cold Wave, pour moi, ça a été assez déclencheur. C'est pareil, c'est autour des années 2010, je découvre Grout Zone. Et je découvre qu'en fait, justement, les inconnus, ils plagiaient ou ils se moquaient d'un style de musique qui existe vraiment. Et que peut-être dans ma famille, on n'écoutait pas forcément, qui est genre la Cold Wave, la New Wave française. Et à ce moment-là, j'entends des voix qui chantent en français, qui existent, avec des trucs qui existent depuis des dizaines d'années, que je connaissais pas bien, ou Grout Zone, ou même, et après, je découvre aussi le Krautrock, enfin, la musique métronomique allemande et tout. Post-Kraftwerk. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs. Il y a un moment où, boum, il y a toute une poche de musique européenne que je découvre que j'avais pas écouté parce que j'écoutais essentiellement de la musique américaine, afro-américaine, beaucoup de, ouais, voilà, tu vois, de soul, de funk, de hip-hop. Et il y a une espèce de poche où tout à coup le groove a disparu, mais où tout à coup il y a presque plus une place pour moi, quoi.
Pourquoi plus une place?
Je sais pas.
Tu savais pas le faire, le groove?
Une histoire de légitimité ou de te dire.
Je pense qu'il y a il y a l'appropriation culturelle inconsciente, enfin la peur de l'appropriation culturelle inconsciente à ce moment-là dans ma tête. Il y a aussi un truc où en effet. Tu feras jamais aussi bien des accords d'un mec qui a appris l'orgue, qu'un mec qui a appris l'orgue ou qu'un ou une organiste. Donc en fait, tu vois, Bleu Sous-Marin, c'est un peu ça, c'est un peu un blues de blanc avec une PlayStation, quoi. En vrai, c'est ça, c'est une espèce de
attends, j'ai envie de
c'est un peu maladroit,
maintenant.
Quoi. C'est un peu maladroit.
Maintenant qu'on a eu cette super description, il faut absolument qu'on se mette un extrait de Bleu Sous-Marin. C'est parti. Blues de blanc avec une PlayStation, c'est ça?
Ouais. En fait, il y avait l'idée de la du swing. Pareil, hein, vous avez une minute d'intro là devant vous.
Il est terrible. Hein.
J'aime bien.
Chante encore en anglais à ce moment. retrouveras pas sur tes albums suivants.
Non, pas sur les albums. Là, j'ai sorti un morceau il y a 2 ans qui s'appelle Deep Sea Blue Song, qui est en anglais, mais c'était pour un projet avec une autre artiste. Mais là, à ce moment-là, je suis encore en train de... Si je chante en anglais, c'est que j'imite un peu de la musique que j'ai écoutée, qui est majoritairement en anglais. J'ai réalisé qu'en fait, petit, j'écoutais de la musique dont je comprenais pas les paroles, comme beaucoup, comme tout le monde. Hein. Ouais. Mais c'est quand même zarbide de dire, t'écoutes, et du coup, tu retiens, tu vois, je pense à No Diggity.
Ouais, Black Street, ouais.
Je connaissais tous les phonèmes par cœur, mais je n'avais aucune idée de aucun mot qui était dit, tu vois.
Ce qui est génial, c'est que même les Américains, ils comprennent pas. Donc,
ah ouais, c'est vrai?
Ouais, il y a plein de morceaux, genre Michael Jackson.
Ah oui.
Il y a des anglophones qui ne pichent pas très mot de ce que le mec raconte. Parce que
c'est cryptique,
aucun sens.
Ouais.
Genre Smooth Criminal, c'est imbitable, ne veut rien dire.
Ah oui, je vois. Ouais,
donc
génial.
En fait, ça reste. C'est vrai que nous, on n'a pas ça. Dans la culture française, on a la culture des paroliers, du texte intelligible, etc. À part René Lataupe, et encore, tu vois.
On y revient toujours.
On a rarement un mec en français qui dit des trucs où on comprend que dalle.
Bah, Christine.
Ok.
Moi, je sais qu'il y a des morceaux de Christine and the Queens où je comprends pas. Mmh.
Mais parce qu'elle aussi, des fois, elle place dans certains de ses morceaux des trucs en anglais.
En plus, il y a anglais, français, mais je pense qu'il y a vraiment une période aussi où, Michael, mais il y a une manière de. Il y a une prosodie, une manière de dénoncer qui est tordue, quoi. Comme,
oui, c'est tellement pour l'esthétique.
Passé par plein de pop.
Du coup, ça.
Ouais, c'est pour le jet des mots. Ouais.
Parce qu'après, mais c'est encore autre chose, il peut aussi y avoir l'aspect simplement absurde, qui est intelligible, mais juste absurde, que tu peux aussi d'ailleurs faire ce côté un peu, enfin je sais pas si le terme absurde te convient.
Si, ça va, ça te va carrément.
Bah... Je sais que t'es fasciné aussi par Brigitte Fontaine, t'as fait des reprises d'ailleurs de Brigitte Fontaine.
Ouais, à fond. Ouais, bah c'est ça, c'est que du coup, quand la voix et le mot, il est assez central et que toutes les oreilles sont focus... Eh ben, c'est assez kiffant d'emmener.
Prendre un contre-pied.
Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Tu penses que ça va aller là, et puis en fait, comment on est arrivé, on était là, on est là, pourquoi pourquoi la rime, elle n'arrive pas là où je l'attends, tout ça, ça c'est fun.
En parallèle de Léviathan, enfin, pas en parallèle, mais un an après, donc il y a ce premier contrebande qui arrive. Comment. Parce qu'on ne peut pas tout écouter, on ne va pas s'arrêter sur chaque album, etc. Mais. Même si la démarche est un peu différente à chaque fois avec ces contre-albums entre guillemets, on a compris un peu là derrière, c'est de dire je suis dans un processus créatif, il me reste plein de trucs, etc. J'ai envie aussi de les sortir, de les faire cohabiter, etc. Mais ça donne forcément déjà une œuvre plus déstructurée quand même. Je sais pas si t'es d'accord avec ça.
Non, je pense pas.
Non, tu penses pas.
Enfin, qu'est-ce que t'entends par déstructuré?
Je pense à Contrebande 02 par exemple, le tout dernier, où en fait tu as. Il n'y a pas une narration claire. C'est des morceaux beaucoup plus courts, souvent aussi d'ailleurs. C'est où je dis une bêtise parce que sur la friche c'est très court par exemple, peut-être que je confonds avec la friche.
Non, Contrebande, je pense qu'il y a moins de morceaux, ils sont plus longs, le disque il fait 40 minutes aussi.
Une bêtise. Attends.
Tout simplement pour que ça tienne sur à l'époque s'il est sorti gratuitement et c'était pas en vinyle, on a fait un vinyle plus tard.
Tu vois, c'est quand même globalement
c'est une heure.
Tu vois, sur Contrebande 02 c'est quoi le plus long, c'est 5 minutes quoi. Tu vois, t'as 8 minutes 21 pour Summertime Jam, excuse-moi.
Ah oui.
Mais sinon, et puis t'as les skits par exemple.
Ouais.
Il a mis des skits dans le morceau, donc on rappelle ces espèces de
pastilles
interludes. Enfin, globalement, il y a une structure quand même qui est pas celle d'un album classique.
Mais en fait, parce que moi, quand t'écoutes les albums de Mobb Deep, il y a des skits entre tous les morceaux. Ouais. Moi, c'est ce que j'écoutais. Enfin, les albums de Redman, genre, il y a un skit entre chaque morceau, tu vois. Moi, c'est pas le plus reluisant, mais j'écoutais beaucoup The Roller Coaster Malpractice.
Ok.
Qui est un des albums de j'ai dit Methanol, je voulais dire Redman, pardon.
Oh, Redman, ouais.
Et en fait, il y a des interludes entre chaque morceau qui singent par-ci des émissions de radio, des émissions de télé, des programmes et tout ça. Moi, ça fait partie parfois les interludes, en fait, ils sont souvent à la fin du morceau.
Ouais, et au début du suivant.
Au début du suivant, ouais. Et ça dépend. Et avec le streaming, en fait, c'est un peu plus compliqué. Donc, mieux vaut les séparer parce que du coup. Mais même Kendrick Lamar, en fait, il a des interludes entre chacun de ses morceaux.
Après, cet aspect structure, il vient pas seulement des skits, hein, parce que tu as raison, c'est un truc qu'on peut retrouver dans l'histoire de la musique. Mais typiquement, le rapport direct entre plongeureuse et rewind, raclure, tu vois, enfin. Il est pas.
Je te le prouve. Ça, c'est musique 2000.
Voilà, tu vois, ça c'est un des morceaux de l'album, Das par exemple.
Ça c'est le truc sur PlayStation.
Ah, c'est le skit, mais.
Ça c'est un sample du making of du clip de The Far Side. Où t'as un des rappeurs qui est en train de dire ce qu'il est censé, ce que le linguiste lui a dit de dire pour que quand ils disent les mots, quand ils remettent à l'envers, ça sorte. Donc il a trouvé un truc. Et j'aime bien l'idée que ce soit un rappeur qui dise un texte de rap mais à l'envers, donc il dit plus vraiment un texte de rap. C'est conceptuellement, moi je peux te l'expliquer un peu cette interlude.
Certainement, mais tu vois, derrière
mon rapport le plus proche du hip-hop que je puisse faire, c'est ça, c'est sampler The Far Side mais dans le making of d'un clip où il dit les trucs à l'envers.
Je comprends. Tu vois, là, par exemple, on est sur Plongereuse cette fois. Alors, je comprends bien que ça fait sens pour toi, ce rapport au hip-hop, tu remixes les Far Side, etc. Mais tu vois, le lien direct, il est pas, quand je parle, tu vois, de structure plus compliquée, il est pas évident pour les gens extérieurs, tu vois.
C'est ça qui est super intéressant quand même.
Je me rends pas compte, je vois pas en quoi ça devrait être plus clair que juste des morceaux mis à la suite les uns des autres.
Mais ça peut suffire effectivement. Ouais, ouais. Ça peut être une conception d'album pour toi, ça c'est.
Bah à fond, puisque c'est un interlude, donc en fait l'interlude c'est une espèce de contre-forme de quelque chose qui va se passer de manière plus établie sur les autres pistes quoi.
C'est le tampon un peu entre deux propositions.
Ouais, c'est un truc transitoire. Quand j'ai commencé à rencontrer Pan-European, j'avais un SoundCloud aussi. Je faisais des tapes comme ça, hyper, ben, 40 minutes, 60 minutes. Et c'était ça, c'était des enchaînements de bribes de choses qui avaient moins de forme que des morceaux d'album. Et je pense que j'ai gardé cette idée de transition. En fait, c'est presque le rapport au psychédélisme. Comme quand dans un film, en fait, tu sais pas à quoi va ressembler la scène d'après. On t'enchaîne un peu, tu vois, dans un Happy Chat Pong Veraceta Cool où tu regardes une scène et t'es genre, mais qu'est-ce qui va se passer? J'en ai aucune idée. Donc, tu peux pas prévoir parce que tout à coup, les codes formels te sont étrangers et j'aimerais bien que les interludes servent à ça aussi. C'est genre, boum, boum, on te balance un truc et un autre, bam, bam, bam.
C'est vraiment des contre-pieds, quoi, du crossover, quoi. C'est tac.
Ouais, ouais. Alors là, pour dire aussi, on vient d'écouter Plongereuse et même Arthur le sait pas, mais le beat, c'est un sample d'un morceau de Contrebande 01 qui est le bis du bluesman.
Ok.
Voilà.
Donc tu te samples.
Il s'auto-sample. Il aime beaucoup trop les concepts, Flavien. Il aime beaucoup trop. Ouais. T'as peur parfois d'ailleurs que cette approche où tu réfléchis beaucoup à ce que tu fais, que ça entache un peu une forme de simplicité,
de spontanéité.
Non, mais c'est un truc qui peut faire peur. Parfois, tu sais, qu'on intellectualise beaucoup les choses, de dire putain, j'ai perdu un truc en réfléchissant trop, tu vois.
Ouais, je pense que oui, c'est un risque. Ça existe de perdre le moment, tu vois, le momentum, le truc que tu l'avais. Mais c'est souvent. Tu peux pas perdre un momentum avant de faire les trucs. Le momentum, c'est une expression au moment d'enregistrer la musique. Donc. Moi, je sais que tu peux le perdre. T'as une mélodie en tête, tu vas sortir ton téléphone et tu te dis, c'est con, je peux l'enregistrer direct avec le micro. Tu branches le micro, tu fais le truc, tac, 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 et t'as perdu la mélodie. J'aurais dû l'enregistrer avec mon micro et je l'aurais eu, tu vois. Ça, pour moi, là, je m'en veux, mais ça m'arrive pas. Mais ce que je veux dire, c'est que dans ces cas-là, je m'en voudrais. Mais je crois que, la spontanéité, je fais gaffe à cette idée. C'est un peu comme l'authenticité. Je crois que c'est un peu des idées tiroirs. On met les trucs sans vraiment les regarder. Je crois pas que la spontanéité soit quelque chose de si palpable en musique. Je crois qu'on n'a jamais été aussi spontané depuis qu'on a des stations audio digitales dans nos ordinateurs, quoi. Et donc, je crois pas que je réfléchis tant que ça non plus. Je crois que ça mérite d'être réfléchi un petit peu, la musique. Je me considère pas comme un cérébral du tout.
Ouais, mais il y a une approche quand même. Toi, t'as pas l'impression, mais nous, en tant que récepteurs, on dit si, quand même.
Bah, je trouve aussi.
Ouais. Après, est-ce que les cérébraux ont conscience d'être des cérébraux? Je sais pas, tu vois, mais si, quand même. Enfin, on sent qu'il y a
Parfois, ils ont peur d'être trop cérébraux et ils osent pas l'assumer, ou le dire.
Non, mais en fait, j'ai le temps de faire de la musique aussi. Ouais. Je pense que je crois que quand tu fais de la musique et que ça commence à marcher ou que t'as un peu de succès et que tu commences à faire des trucs pour faire en sorte que tu continues à faire de la musique, tu dois faire plein de trucs où t'as plus le temps de faire de la musique. Je le vois chez mes compères.
C'est le même rapport à l'artisanat en fait. Un artisan qui prend du temps pour son craft, pour son art, et qui, quand il commence à fonctionner, bah, il a de moins en moins de temps à passer sur les trucs qu'il fait parce qu'il a d'autres trucs à gérer, tu vois. Et souvent, tu te retrouves à déléguer, du coup, et puis c'est plus toi. Et puis à la fin, il y a quand même ton nom sur le truc, mais c'est plus toi qui a fait le truc. Et, ouais.
Tu vois, non, mais c'est, puis c'est t'as vrai, plus c'est... de jus, du coup, faut que les autres te proposent des idées parce que t'as plus trop d'idées, parce que t'es crevé, parce que c'est fatigant de. Ça va, hein, moi, je suis pas fatigué, mais je veux dire, ça peut être fatigant pour certaines personnes d'être sollicité tout le temps de leur personne elle-même. Tu vois, de.
Mais les gens veulent un morceau de toi.
De ton attention, de ton cerveau, de ton truc et tout. Donc, je pense que je peux voir. Ça peut arriver de voir des artistes qui ont plus de jus pour faire la chose pour laquelle ils sont. Écoutez quoi, enfin c'est de la musique quoi. Donc tu vois là je suis censé faire des trucs et pourtant là à la maison j'étais dans mon atelier quoi et puis j'ai fait de la musique pour je sais pas quoi. J'ai juste fait de la musique parce que j'avais des idées, des trucs comme ça et puis tu fabriques et puis faut faire. Je fais attention aussi à ne pas faire que de la musique quand j'ai des projets qui me demandent de faire de la musique comme des films, des ballets ou des disques ou même des projets plus commerciaux.
Tu gardes la pratique.
C'est important de faire de la musique sans trop savoir pourquoi ça va être et que ça serve à rien aussi. Pour moi, c'est important de faire de la musique qui sert à rien.
Et c'est même aussi pour entretenir un peu des skills, des trucs comme ça.
Je crois qu'inconsciemment, ouais, il y a un peu un truc
artisan.
De
discipline.
Ouais. Discipline molle. Mais un truc en tout cas de gym de cerveau un peu, ouais, de artisanal. J'aime bien l'idée.
Ouais, mais c'est complètement ça. Ouais. C'est
en tout
démarche,
cas, hein. Moi, je vais pas en studio, tu vois. Enfin, je suis pas contre. C'est juste que ça me panique. Le studio d'enregistrement où t'arrives à 10h et puis tout est branché et ça sent un peu la bougie qui sent le parfum et il faut être un peu efficace parce que bon, bah, tu payes à l'heure quand même.
On paye le temps, ouais. On paye les sessions.
Et du coup, faut être bon. Et du coup, moi, je suis jamais aussi mauvais que dans un studio d'enregistrement avec d'autres artistes, quoi. C'est genre. Je préfère être
même avec autant d'albums dans
derrière toi
sous la ceinture t'as toujours un petit peu ce côté
mais je crois que je suis
anxieux
ouais à fond. Ah ouais, je pense que j'aurai tout le temps un syndrome d'imposteur qui est un peu galvaudé comme terme aujourd'hui, mais c'est-à-dire que même quand je suis en train de co-réaliser l'album avec Pomme et qu'on est dans un super studio au Québec, à un moment il faut enregistrer des trucs de synthé, j'ai une note à appuyer et je vais rentrer dans un looping mental où je vais me dire
faut pas que je me loupe,
toutes les musiciennes sont trop fortes et là t'es genre putain mais je vais pas y arriver, je suis une de merde, je sais pas faire de la musique, et là tu sais, tu deviens tout à coup tu es rappelé au fait que je suis rappelé à mon complexe de non musicien, tu vois,
c'est-à-dire de non instrumentiste parce que tu fais de la musique,
du coup je fais l'amalgame, tu vois.
Et du coup, t'as jamais eu de volonté justement de te dire, bon, pour régler ce truc-là, je vais apprendre le solfège.
Grave. J'en ai grave. Mais bon, voilà, on parlait de discipline molle. Ouais, je me rêve jouer un peu de la guitare, savoir jouer les idées que j'ai au piano, savoir penser en harmonie, tu vois. Mais bon, là, je pense que c'est comme mon permis de conduire, tu vois. Je vais le faire un jour.
On est en 2018, sort Contre-temps, ton deuxième album. Alors je t'ai déjà lu dire que c'est peut-être celui qui a été le plus compliqué à sortir, parce que j'imagine qu'il y avait la pression du premier qui avait été déjà une première réussite plutôt globalement, saluée par la critique, etc.
Je m'en rends pas compte.
Et que tu t'es dit ce que je suis capable d'en faire un deuxième, quoi.
Ouais, c'est ça. En fait, il y a deux trucs. Il y a donc mon deuxième album. Déjà, je vous disais tout à l'heure que le premier album était parti de plein de bribes de choses qui existaient déjà, qui existaient depuis toujours. C'est-à-dire que c'est le premier album, tu mets ta vie à l'écrire, et puis le deuxième album, tu mets 2 ans à l'écrire. Je crois que c'est Lao qui m'a dit ça une fois, tu vois. C'est pareil pour tous les artistes, quoi. 2 ans, 4 ans, 5 ans, enfin, ça dépend, mais. Et là, je me suis dit, ok, donc je pars de zéro. Moi, je veux pas réutiliser dans toute ma matière, comme un peu un truc écologique de genre, je vais laisser le sol en jachère, et je vais refaire plein de trucs. Donc il y a eu ça, genre est-ce que je suis capable de faire des trucs qui vont être des morceaux là maintenant, est-ce que je suis capable de composer dans le présent entre guillemets sans laisser les morceaux vieillir et savoir quoi piquer dedans. Et puis il y a aussi le fait que bah ça y est, j'étais musicien entre guillemets, donc j'étais,
c'est-à-dire que tu gagnais ta vie en tant que musicien.
Il y avait ça et puis je rencontrais d'autres musiciens. C'est-à-dire que avant je traînais pas avec des musiciens et musiciennes. J'étais pas dans un milieu de Zikos, j'étais seul parmi des gens qui faisaient d'autres choses. Et quand j'ai commencé à faire mon album, puis faire mes tournées, j'ai rencontré des comparses. Et donc il y a eu aussi un peu un truc à un moment de
la pression des pères
le oui, qui se moi se pouvait un petit peu se formaliser comme qu'est-ce que ferait machin ou qu'est-ce que machin va penser, machin ou
ouais,
machine.
Ouais.
Ça dépend. Et du coup, c'était pas énorme, ça m'a pas bloqué, mais c'était genre, il y a un nouveau truc dans la pièce là.
Ouais.
Et donc voilà, donc c'est le fameux deuxième album. À mon avis, il est un peu galère quoi.
C'était quoi la parade pour te décomplexer?
Cette
discipline justement dont on parlait.
Oui, c'est ça, c'est persévérer,
voilà.
Persévérer, faire plein de trucs, pas oublier l'enthousiasme en fait. Et puis ça a été quelque chose aussi hyper bien parce que ce deuxième album, c'est le début de. Et paradoxalement, c'est le début de la collaboration. J'ai pour la première fois des collaboratrices sur mon album, Bonnie Banane et Rebecca Warrior, et c'était le fameux jeu du feat, genre. Et moi, ça est venu par pareil. J'entendais leur voix. Et j'entendais leur voix parce que je les avais côtoyées, parce que j'étais musicien. Donc voilà, c'était un peu nouveau, quoi.
On s'écoute. Il y a ce fameux morceau. Je pense beaucoup de gens t'ont découvert, je pense, avec ce morceau avec Pamplemousse.
Ah ouais. Ah cool.
En tout cas, moi, c'est comme ça que je te découvre.
Ok, ouais.
En 2018 donc, et bah, j'adore ce morceau tout simplement. Mais c'était un gros tube pour toi quand même, non, Pamplemousse? Pas tant que ça.
Ah, moi je crois que j'ai jamais fait de tube.
Jamais fait... Oui, non, tube, j'exagère, mais ce que je veux dire c'est que c'est un morceau qui pourrait être single entre guillemets, tu vois, que t'as clippé, que t'as, enfin tu vois ce...
Ah, on l'a clippé bien plus tard. Parce que mon pote Tristan, il avait fait plein de vidéos de son chien amoureusement, et du coup on l'a clippé des années plus tard. En fait, je pense que les gens qui cliquent sur un morceau que j'ai fait, pour eux, c'est leur tube. Tu vois, après, j'ai ceux un peu... Mais en fait, il y a très peu de différence d'écoute. Je vais un peu flexer, là, mais il y a peu de différence d'écoute entre chacun de mes morceaux. Il n'y a pas un track avec un zéro de plus que les autres, tu vois. Genre,
même,
quand tu
sur
descends...
Sur Spotify, un peu, quand même.
Quand tu descends, bah, ouais. C'est...
T'en as 10 millions, là.
Ouais, genre,
ouais, mais celui,
la nuit, ouais.
Celui après, il a... Il a quoi?
Il a 1 200 000, quasiment 2 millions
d'ordres.
Ah oui, ah oui, tu vois, ça fait genre
oui, c'est graduel.
11, ouais, ouais. 10, 9, 8. Enfin, du coup, j'ai un peu l'impression de me la péter, mais ce que je veux dire, c'est que je suis protégé de ça. C'est un track qui
oui,
vraiment t'es connu que pour un
ouais,
son.
Non, oui, ça oui.
Et du coup, je sais pas, mais je trouve que c'est une bénédiction, quoi. J'ai eu de la chance là-dessus.
Allez, un extrait de Pamplemousse.
Ouais, de fou. Pareil, je pense que c'est une minute. Là, on entend de l'eau qui boue.
Là, c'est quoi?
Là, c'est de la voix.
Qui dit la voix certainement.
Je me souviens, à l'envers. Ouais, bien joué. Là, je sais pas si y a un autre truc méta.
Un peu la même rythmique que Hotline Bling de Drake là. C'est
ah ouais.
Simple.
Ta robe à la couleur petit déjeuner.
Bon, il est trop beau ce morceau, bravo. Moi, je le
kiffe. Merci.
Ouais. Merci. Super cool. Ouais.
D'ailleurs, est-ce que tu peux dire jus de pamplemousse, s'il te plaît?
Jus de pamplemousse?
Merci.
Pourquoi? J'aime pas du tout le jus de pamplemousse.
C'est vrai. Et ben, tu sais quoi? J'ai failli en acheter, heureusement que j'en ai pas pris.
C'est imbuvable. Je comprends pas comment on peut s'infliger ça.
Écoute, je fais un big up, c'était un de mes défis, je devais te faire dire jus de pamplemousse.
T'as gagné.
Je partage l'amour de ce morceau avec quelqu'un d'autre. Et, j'aurais adoré qu'on s'arrête sur tous tes albums limite. On peut pas le faire. En deux heures d'émission, c'est pas possible. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même continuer à s'écouter un peu des morceaux qui arrivent après, mais en passant à une seconde partie.
Yes.
Pour parler un peu quand même de ton processus, on a compris que tu bossais quasi exclusivement en home studio, ton processus de création. Comment ça se passe? T'es très geeko ce matos et tout? T'as beaucoup de trucs à la maison? Tu utilises du hardware? T'es en plug? C'est quoi globalement ton setup?
Ah ouais. Plug, c'est débile. J'utilise comme si c'était de l'analogue. Quand j'ai un peu de plugin, tous les trucs que je fais tout de suite, j'enregistre sur cassette audio parce que je sais que ça n'existe pas, mais je ne crois pas au plugin. Je sais pas comment dire. Je sais que c'est une interface. Je sais que c'est dans mon ordinateur. Peut-être que si j'avais des interfaces un peu et encore les contrôleurs, c'est, tu sens que ce que tu tournes, ça pourrait être tous les autres trucs que tu tournes. En fait, je sais pas, il y a un truc abstrait auquel je n'adhère pas dans le contrôleur où tu peux tout contrôler. Comment dire, je préfère le potard d'un cut-off, d'un synthé, et c'est son potard à lui, ce cut-off là. Il peut pas cut-offer n'importe quoi dans la planète, quoi.
Ouais.
Et du coup, j'ai l'impression que j'y crois plus quand c'est physique. Quand c'est analogique ou pas, ça veut un peu rien dire, mais quand l'interface
c'est dédié, en fait,
est dédiée à l'instrument à qui elle appartient.
Du coup, ça va pas du tout avec le sens du progrès.
Non.
Parce qu'on est pile dans l'inverse.
Ouais, de fou. Ouais.
Tu lui trouves un intérêt quand même à ces solutions numériques.
Oui.
Leur maniabilité, le fait. Et après, tu les repasses pour avoir.
Même le son qui sort, tu vois, genre, il y a des simulacres de synthétiseurs qui sont, je crois même, qui ont été prouvés que c'est à peu près le même son que le synthétiseur. Et tout, c'est super bien.
Il faut la vraie machine.
Je sors des trucs, tu vois.
C'est une question de workflow, de toucher avec les mains. C'est quoi? C'est au-delà du.
Ouais. Même en termes de dos, tu utilises quoi du coup?
Jusqu'à contre-temps, j'utilisais GarageBand.
Ok.
T'es resté sur
GarageBand.
Même pas Logic.
J'aime pas ce Logic.
Et contre-temps, j'ai commencé Logic. Et là, depuis 2018, je suis sur Logic.
Ok.
Et je pense qu'en vrai, moi, je suis un mec qui devrait bosser sur Live, mais j'ai jamais utilisé Live.
Est-ce que tu utilises beaucoup de boucles? Tu travailles beaucoup avec des boucles?
Et oui. Ouais. De fou. Mais du coup, j'utilise. Je pense que. Donc là, c'est presque psychanalytique, mais j'utilise pas les outils pratiques pour moi. Ouais. Tu vois, je veux dire, j'ai attendu 20 ans pour faire la musique sur un ordi, et avant j'étais sur une PlayStation.
Ouais.
Et donc.
T'as besoin d'être un peu contraint par le.
Je crois qu'il y a un truc où je suis à l'aise dans la contrainte.
Dans la contrainte, ouais.
Et donc.
C'est pas aussi parce que tu aimes te faire un peu mal, c'est que t'es à l'aise dans la contrainte.
Non, je pense pas que ce soit. En tout cas.
Y a pas l'idée que pour sortir quelque chose, faut souffrir un petit peu?
Non. Non.
Non.
Non, parce que c'est pas de la souffrance. C'est tout le temps enthousiaste.
C'est plus du détournement. Est-ce que c'est pas aussi une. Alors là aussi, on est dans la psychanalyse totale. Est-ce que c'est pas une façon aussi de te dire. On pourra pas mesurer ma connaissance ou mon talent sur le truc si j'utilise justement quelque chose qui est pas forcément fait pour ça au départ? Et
franchement,
du coup...
peut-être. Bon, après, en vrai, j'utilise Logic comme quelqu'un qui utilise Logic, mais je pense que...
Non, mais avoir fait tous tes premiers trucs sur PlayStation et sur GarageBand, qui, on le rappelle, est le soft qui est vendu avec n'importe quel Mac.
Qui est déjà gratuit dans un Mac,
qui est gratuit, qui est très bien, mais qui est...
C'est la version entrée de gamme, entre guillemets, de Logic, effectivement.
Ouais, Logic, quoi, il n'y a pas vraiment d'autom, il n'y a pas de truc... j'aimais bien mes plugins de GarageBand et j'utilisais pas et en plus mais il y a aussi un truc, c'est que j'utilise pas les presets. Donc
j'utilise principalement les plugins stock déjà intégrés
j'utilise les plugins des DAW et j'utilise pas les presets des plugins des DAW. Donc tu vois, je vais prendre une reverb et je vais enregistrer un preset, je vais tout refaire à zéro, tu décliques tous les trucs et tout ça. C'est
tu te fais des sessions un peu sound design entre guillemets, où tu crées tes propres presets, t'enregistres et puis tu réutiliseras plus tard.
Non, ce que je fais, c'est que je fais plein de matières que je l'enregistre sur bande et qu'après je la renumérise et je m'en sers.
Okay. Donc tu préfères figer un audio et tu dois te démerder avec ça?
À de fou. le potentiel, non mais même le potentiel d'avoir une grille d'accord et qu'en fait cette grille d'accord peut être jouée par n'importe quel son m'angoisse au plus haut point.
Pas de midi, pas de...
Bah si, forcément j'utilise quand même beaucoup de midi, mais je suis toujours un peu dans la vase quoi, je suis toujours un peu tu vois, je suis...
Et t'as pas le truc de te dire merde, j'avais mis quoi comme preset pour avoir ce son-là sur tel truc?
Ah mais justement, ça me va de ne plus savoir.
De jamais retrouver exactement les mêmes...
Ouais, ça me va de ne pas retracer. Après, non, je mens un peu parce que je fabrique mes samplers. Donc, pour le coup, j'utilise beaucoup fabriquer mes sons pour un son de clavier. Donc la note du do, je vais la fabriquer, puis je vais la mettre sur un sampler qui joue le do, le ré pareil, tout ça tout ça. Ou alors je fais un sample et puis je le map pour qu'il se mette aux bonnes notes. Je sais plus comment on appelle ça, mais ça, j'aime beaucoup le sampler.
Il y a un élément dont il faut que tu nous parles aussi, c'est le texte, évidemment, c'est la voix même de manière générale, parce que alors malheureusement, on n'écoute pas autant de musique que j'aimerais de tes différents albums, etc. Mais on a quand même vu qu'il y a eu une évolution assez claire. Je sais pas ce que t'en penses, Daz. Ouais. Tu vois, du début à aujourd'hui, le dernier morceau Pamplemousse. Et en fait, la voix est de plus en plus présente. Elle est d'ailleurs de plus en plus mixée en avant au fur et à mesure de tes albums.
Ouais.
On peut s'écouter d'ailleurs sur ton dernier gros album qui est Dans 100 ans. Il y a un morceau que t'aimes bien. On peut s'écouter Dans 100 ans, comme ça on voit un peu l'évolution après. Ça te va ou tu veux un autre?
Ouais, comme tu veux.
Quel morceau t'apprécies particulièrement sur cet album?
Ça dépend ce qu'on attend. Non, on pourrait mettre Les yeux le reste. C'est le morceau qui ouvre le disque et la voix elle est en avant.
Et bah c'est parti alors, parfait.
Ça c'est ma référence à D'Angelo. La basse à l'envers.
Les yeux pour briser la tétanie. Un regard comme ça, ça peut changer une vie. Je ne veux pas que tu me vois ainsi. Je suis tombé plusieurs fois amoureux de toi. Resquilleuse. Spécimens humains entrés en vibration.
T'as vu, Daz, à quel point la voix, là c'est vraiment l'essentiel, même j'ai envie de dire, du morceau. Enfin, en tout cas, c'est un des éléments importants.
En vrai, il y a plein de bidules, mais c'est vrai qu'ils sont vachement dans le fond.
Je trouve qu'il y a un truc qui m'est. J'aimerais avoir ton avis, en fait. Dans ta discographie, de manière générale, tu gardes une forme de minimalisme dans ton rapport à la voix, quand même. C'est-à-dire que tu t'en fais pas trop avec ta voix.
Non, les effets, je suis pas chaud des effets de voix, genre écoute comme j'en chante bien.
Alors que quand on regarde tes lives, t'as une belle voix, tu chantes bien. Mais t'as pas envie de montrer ça dans la performance sur les disques. C'est un truc auquel t'as déjà réfléchi, ta conscience, c'est voulu, c'est...
Non, je conscientise pas du tout mon expression de voix, mon rapport à la voix.
Tu te considères comme...
Je chante.
Mais c'est ça que tu mets en premier dans, tu vois, auteur, compositeur, interprète, c'est quoi le...
Ça dépend. Quand je suis avec un mec une personne de 60 ans, je vais dire que je suis chanteur. quand j'ai quelqu'un de ma génération, je vais lui dire que peut-être, je sais pas, je réalise des disques dans lesquels je chante et je compose, tu vois. Ça dépend. Mais je me suis rendu compte, j'ai entendu là l'autre jour, j'ai dû réécouter des passages du Contretemps justement, et j'ai entendu comment je chantais pour la première fois
récemment.
Récemment, cette année, enfin l'année dernière, 2023, je ne savais pas à quoi vraiment ça ressemblait quand je chantais, tu vois. Je me rends pas compte, c'est très difficile. Ça sort de moi, c'est mon expression, c'est des mélodies que j'entends, que je rechante, mais j'ai du mal pour le coup à me mettre dans les baskets de quelqu'un d'autre qui va entendre comment ça sonne. Et je pense que je peux être très gêné par une manière de chanter en français. Enfin, il y a des manières de chanter en français qui me gênent quand il y a trop de techniques, quand il y a trop d'effets, quand il y a trop de, voilà. Je dis ça parce que je peux écouter les Destiny's Child et adorer, tu vois. Alors que c'est de la démo pure de technique vocale, quoi, par moment. Beyoncé. En français, je sais pas, il y a un truc où, Ouais, je... Et du coup, je crois que ma manière de chanter, elle est un peu nonchalante. Enfin, elle est un peu sans...
Oui, on peut le voir comme ça.
C'est pas un chichi. Sans trop faire d'efforts.
Et comme beaucoup de chanteurs français, en fait.
Ah, peut-être, ouais. Bon, je me rends pas compte. Non, mais il y a un truc dans la... En fait, je crois que j'aime bien entendre que les gens chantent un peu comme ils parlent. Mmh. C'est-à-dire, parfois, t'entends des chanteurs ou des chanteuses et puis ils se mettent à parler, ils ont pas du tout la même voix. Ouais. Et ça peut être chamé, comme ça peut être chelou. Et moi, ça me fait chelou, en français en tout cas.
Ce qui est marrant, c'est que tu dis ça, mais sur les premiers morceaux qu'on a écoutés où tu chantes, c'est pas du tout ta voix.
Non, mais c'est vrai, non, mais.
Alors que la dernière, là, oui.
La voix, je suis pas aiguisé, je sais pas parler de mon rapport à la voix. En vrai, je.
Parce que tu vois, je pense aussi à. Je t'ai déjà vu en live, enfin, dans des captations, hein, vidéo de live, où par exemple, t'as une aisance pour monter dans les aigus.
Ouais, c'est
et avec une vraie qualité pour faire ça, et c'est un truc qu'on retrouve pas sur tes albums,
bah,
par exemple.
Bah si, un peu, en fait.
Pas tant que ça. Ah ouais.
Là dans Soleil, justement, il y a un morceau où je monte dans les notes et puis je finis hyper aigu avec ma note la plus aiguë que je peux faire aujourd'hui, qui est plus basse que celle que je pouvais faire il y a 10 ans. Je m'en rends compte parce qu'aujourd'hui je chante des morceaux de mon premier album en live et il y a des notes que je peux plus faire.
Ah ouais.
C'est incroyable. Et en fait, je pense que j'ai chanté très aigu très très tôt, très vite, et c'est le spectre dans lequel j'interprétais les mélodies que j'avais dans la tête. Donc en fait, il y a plein de maquettes ou plein de bribes de morceaux que j'avais fait avant où genre c'est un peu inaudible parce que c'est que des aigus. Il y a même des live radio, je me souviens que j'ai fait mes premiers live radio où j'improvisais et tout ça. Donc je pense des lives aussi les lives en règle générale, quand j'improvisais, c'était dans les notes aiguës et c'était pas conscient, tu vois, c'était juste
naturel. Mais
c'est comme ça que ça sortait, comme ça, ouais. Quoi. Ouais. Je pense que c'est pour moi c'était plus facile de chanter juste aigu que grave parce que tu contrôles mieux ton air, donc t'es un peu plus précis. Je pense à un truc. Vas-y. Pour en revenir à la voix, c'est vrai que le sujet de la voix c'était un sujet et puis à un moment ça a plus été un sujet au mix. C'est-à-dire que quand on a fait le deuxième album, moi mon mot d'ordre c'était je voudrais que la voix, je voulais calmer l'emphase. Dans Léviathan, il y a des moments où c'est genre waah, un peu, tu vois, genre Vendredi, Léviathan, c'est des morceaux très sentimentaux comme ça, qui waah, où il y a des boucles de voix. Et je me suis dit ça, vas-y, j'essaye l'inverse, genre je calme. Et du coup, dès qu'il y a des moments un peu dynamiques, ça se joue sur des petites choses, sur des silences, sur des... Il y a peu de choses qui changent, mais ce peu de choses, le fait que ça change, ça fait beaucoup, quoi. Enfin, c'était un peu mon idée. Et du coup, je voulais que la voix, elle soit au creux de l'oreille. C'était un peu le mot que je disais à Alf. Je disais, ce serait cool que je chante pas loin de l'oreille, quoi. Donc, je chante pas fort dans le disque. Mais c'était le mot d'ordre. Et quand on a fait Dans 100 ans, il y avait plus de mot d'ordre. C'était genre, on la met où elle doit être. Et à aucun moment, j'ai demandé à Alf de baisser ma voix au mix. Donc, c'est que j'avais mis 3 albums à trouver dans ce...
À l'intégrer, quoi.
Voilà, à l'intégrer dans le vocabulaire musical que je voulais faire à ce moment-là, que la voix, elle soit comme ça, quoi. En fait, ça fait, pardon, je suis désolé,
non,
fait
vas-y,
ça, ça fait toujours peur d'avoir la, moi, venant justement d'une musique plutôt métronomique, dans l'idée dansante, ou en tout cas entraînante, tu te dis toujours, si la voix elle est trop forte, elle va couvrir l'instru et ça va être mou et les gens ils vont pas s'enjailler dessus. Ce qui, en fait, est pas vrai. Je m'en suis rendu compte. Enfin, je sais pas si les gens s'enjaillent, mais je veux dire, c'est que...
Ça empêche pas.
Ouais. Après, il y a aussi une culture, hein, c'est-à-dire qu'en France, on mixe les voix pas mal en avant. Là, on peut se permettre, chez les anglo-saxons, de le faire beaucoup moins, hein, de laisser plus de place aux instruments.
Ouais.
C'est un truc qu'on retrouve quand même régulièrement.
Mais d'un autre côté, des chanteurs à voix en France, en vrai, chanteur français, à part, si tu sors un Garou, il est même pas français, toi. Non, mais je veux dire, tu prends tous les... On parle d'Étienne Dao, on parle de même de Alain Chamfort, tu vois, des mecs comme ça, ils avaient pas de voix, en vrai, tu vois, même Bachung ou n'importe qui.
Bah, ils ont pas des voix puissantes, mais ils ont un timbre.
Ouais, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils sont pas dans la démonstration de technique vocale, tu vois, c'est pas justement, regarde, je suis Minnie Riperton, je fais 12 octaves, tu vois, il y a pas ça, pour les hommes.
Oui,
alors que
vrai.
Pour les femmes, Hélène Ségara, Lara Fabian, par contre, ça envoie, tu vois. Donc, c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'au final, en ayant l'impression d'être sur un chemin un petit peu, pas de traverse, mais en tout cas parallèle à la voix française, le chant et tout, mais en fait, t'es complètement dans le...
Ouais, c'est vrai.
Dans la tradition française, tu vois, masculine en tout cas.
Là où tu vas avoir une forme de singularité, c'est quand même dans tes textes. C'est forcément lié à la voix. C'est un exercice que t'as appris au fur et à mesure. Tu t'es d'abord mis à faire de la musique, puis après t'as commencé à écrire des textes et tu t'es trouvé petit à petit un truc comme ça autour du texte, ou dès la base c'était un truc dans ta tête de dire moi je vais faire de la musique pour aussi mettre des mots?
Ouais, non, les mots galèrent. Les mots galèrent parce que venant justement d'une adolescence où j'écoutais beaucoup de rap français, où le message avait une place importante, et moi concrètement je regarde ma vie, j'avais pas de message. Enfin, tu vois, on en parlait, tu vois, je suis issu d'une éducation bourgeoise, à aucun moment je vais dire aux gens ce qu'ils doivent penser, quoi. Et donc, en fait, j'ai fait des études littéraires, donc j'ai un peu geeké, un peu de poésie, tu vois, donc tout à coup, ok, ce jeu de juste, évoquer des... via les mots, évoquer des choses plus grandes que juste le texte que tu lis, et du coup, le début, c'est un peu des... Il y a deux choses. Il y a le romantisme, quoi, dont j'ai un petit peu fait fi depuis, mais c'est-à-dire parler d'histoires d'amour, et souvent, malheureusement, parler d'histoires d'amour qui sont compliquées, parce que c'est toujours là où, dans les nœuds sentimentaux, il y a des choses intéressantes à raconter, et des paysages à voir. Et je pense que ma musique, jusqu'à mon deuxième album, c'est un peu matinée de ça, c'est regarder comme c'est beau et oh, regarder comme je suis triste, quoi. Tu vois, et je crois que j'ai un moment éculé un petit peu ça et trouvé d'autres manières d'emmener mes chansons. Je pense que ça vient aussi l'écriture, ça vient aussi du rap que j'écoutais, où en fait, à un moment, quand tu comprends que t'as une barre, que tu peux faire tenir tant de mots et que t'écoutes des jeux de mots, des jeux de syllabes, des jeux d'assonance, et que c'est très agréable, en fait, de, comme certains vont, je sais pas, faire du pliage, toi tu fais des mots ensemble, tu les mets ensemble. Donc, je pense que sans le rap, j'aurais pas, tu vois, sans la culture du rap, j'aurais pas mis ensemble des mots pour faire des rimes. Donc il y avait un petit peu ce jeu d'imiter ça. Et puis après, il y a quand même un peu comme le fait de capter des sons. Depuis toujours, j'ai toujours des enregistreurs où je vais enregistrer des sons autour de moi.
Beaucoup de field recording, t'as toujours un truc sur toi et tu vas dans la nature, dans ton environnement.
Ouais, ou même tous les jours, en fait, même là, si ça se trouve, ta canalisation, elle fait un son intéressant, je vais pas bouder mon plaisir.
Tu prends ça avec ton téléphone ?
Là, ouais, aujourd'hui, oui.
Sinon, t'as des recordeurs.
Mais sinon, j'ai un zoom, voilà, tu vois. Et les mots, c'est un peu pareil, tu vois, tu vas dire un mot, tu vas avoir une expression et tout ça, je vais dire putain cette expression, et du coup je vais la noter, et en fait après je vais avoir un stock de trucs qui vont me rappeler que ça j'ai bien aimé, du coup je vais les mettre ensemble, tu vois, dans l'atelier, pareil.
Il y a une difficulté, parce que c'est marrant, alors je sais pas comment l'aborder, je veux pas que tu le prennes mal ou quoi que ce soit, mais j'aimerais en fait avoir ton regard par rapport à ça. C'est qu'à partir du moment où on met des mots, on dit aussi quelque chose de soi.
À fond.
Et au-delà du truc intime, aussi de sa condition, d'où on vient, sa maîtrise du vocabulaire, etc. Ouais. Ce que l'on signifie, de qui on parle, de quoi on parle, etc. Et ça fait que le public, il peut recevoir différemment sa musique, mine de rien. Tu parles par exemple de ton amour pour le rap, etc. Moi, j'ai déjà entendu vis-à-vis de ta musique des gens me dire « c'est de la musique de bobo », entre guillemets. Je sais pas si c'est un truc... Est-ce que tu penses qu'il y a une sociologie de la musique?
Je pense, parce que moi, je me suis... je me suis rendu compte d'où je parlais il y a peu de temps, tu vois. Genre, ça fait 3-4 ans que j'ai vraiment déployé une réflexion politique, réellement, tu vois, dans ma vie personnelle, à plein d'égards. Donc, en fait, je pense que je le veuille ou non, en effet, mes références... même mon insouciance quelque part, elle résonne avec peut-être des gens qui viennent du même milieu que moi et qui ont plus à, enfin je sais pas comment l'exprimer, parce que c'est un, en effet la sociologie du public de concert, c'est intéressant aussi. Bon, là elle commence à s'ouvrir un peu, à Paris je sais pas, parce que je suis en tournée plutôt dans la France et je capte plus trop mon public là, et je kiffe ça. Parce qu'il y a...
C'est-à-dire qu'il est plus éclaté, plus éclipsé.
Déjà en âge, il y a le spectre, il est de plus en plus grand là. Je pense qu'il y a les... Enfin voilà, il y a plein d'âges différents. Je pense que... Bah oui, évidemment, je...
C'est un truc avec lequel t'es à l'aise, qui t'inquiète, qui te...
Moi, j'ai hyper peur d'avoir un public de droite. C'est ma plus grande peur. Mais après... Je veux fermer la porte à personne, mais c'est vrai que
t'as des T'as des textes, enfin des sous-textes ou des propos peut-être engagés que tu fais passer.
Ah, quand il parle de l'immigration,
la chanson J'aime Fillon, forcément, elle a dû.
Ah, c'est avec deux L. D'accord, j'avais pas compris.
Non, mais non, le sous-texte, je commence là, vite fait. Là, ouais. J'ai un morceau dans mon dernier album Contrebande 2 qui s'appelle Rivière, où je fais un parallèle un petit peu entre aller à la rivière et aller en manif. Mm-hmm. Bon. Une fois que j'ai dit ça, j'ai pas dit grand chose, tu vois.
Ouais, mais enfin, c'est déjà cool de faire le parallèle, tu vois. Après, tu précises pas la manif, donc ça peut marcher.
Exactement,
même pour. Ouais,
exactement.
Pas mal.
Je vais rire enfin.
Non, je dis juste qu'à la fin, qu'on est comme des poissons et que le but, c'est pas de se faire nasser. Donc, déjà, ouais, tu vois, oui, que j'évite les forces de l'ordre.
Ouais.
Donc, ouais, c'est vrai que j'en parle pas beaucoup et c'est peut-être même la première fois que j'en parle ici. Hein, c'est quoi mon rapport au public, c'est quoi mon rapport à la politique. Je m'étais jamais vraiment posé la question avant, donc le fait que je me pose pas la question me plaçait aussi peut-être sur un bord politique.
Oui, où on se dit effectivement.
Quand t'es pas engagé, c'est que t'as pas besoin d'être engagé, donc ça veut dire que.
Certaines classes peuvent se permettre justement de s'éveiller un peu plus tard parce que moins soumis à potentiellement des oppressions, ce genre de trucs.
Exactement.
C'est marrant que j'ai compris qu'il y a une construction politique personnelle aussi qui s'est passée, qui donne forcément un autre regard sur toi aussi, ton métier, entre guillemets, tu vois, mm-hmm. et les gens qui t'écoutent et tout. Mais avant, t'avais pas déjà des clés, tu te questionnais pas sur qui sont mes auditeurs, pas forcément.
Non.
Ah, c'est marrant.
Bah, je pense qu'ils se questionnaient déjà pas mal sur qui je suis moi-même, en fait. Parce que ça, c'est un truc qui est assez prégnant depuis qu'on discute, c'est qu'effectivement, t'avais toujours quand même ce côté. Il faut pas qu'on puisse me faire de procès en appropriation culturelle, tu vois, quand tu dis que tu t'es buté au rap, au funk, et pas à la funk des Lyonnais, là.
Les deux sont valables, monsieur.
À la soul, et que du coup, t'as essayé de t'en éloigner pour éviter, justement, d'être potentiellement accusé de t'approprier une culture qui ne serait pas la tienne, tu vois.
C'est pas que ça, d'ailleurs, ton truc, hein. Mais il y avait cet élément,
ouais,
effectivement,
y avait ce truc-là, un petit peu, ouais.
J'en ai parlé de manière inconsciente, tu vois, aujourd'hui. Enfin, bon, je sais pas si je vais être trop radical là, tu vois, mais il y a une rappeuse que j'aime beaucoup qui s'appelle No Name, mmh. et qui a un discours assez intéressant où elle dit, en gros, les blancs, c'est la seule culture qui, parce qu'elle peut s'approprier quelque chose, le fait. Mmh. Ben, tu peux, donc tu le fais. Donc maintenant, tu vois, toutes les sous-cultures, toutes les émergences peuvent être potentiellement réingurgité par la culture blanche dominante. Mmh. Parce qu'on peut. Donc on le fait. C'est des mots sur lesquels j'avais pas.
C'est plutôt un rapport de domination, c'est
de
ça
fou,
que tu veux dire.
De fou. Mais ce que je veux dire, c'est que j'avais jamais formulé comme ça. Mais pourtant, je pense qu'il y avait un truc en moi qui était. Il y avait quelque chose qui grinçait à un endroit.
T'es pas à l'aise, ouais.
Parce que c'est. Alors, c'est des sujets compliqués.
Ouais, de fou.
Qui font souvent réagir sur Internet, etc., avec des positions. Mais je crois qu'il faut quand même faire un distinguo. Enfin, moi, en tout cas, c'est quelque chose que j'applique. C'est il y a la dimension culturelle et politique, puis aussi une dimension du quotidien des musiciens qui échangent. La culture est faite pour être échangée aussi, et je pense que ça, c'est un truc que tu vas assumer aussi, que tu vas dire de ton côté. C'est si t'as envie de faire un morceau en hommage au funk, je pense que tu vas le faire quand même. La question, c'est ensuite comment tu vas l'exploiter, comment tu vas créer ton quoi tu
non,
poserais même pas
c'est... non reprend... je crois que
tu voudrais pas faire du jazz, par exemple. Tu pourrais pas. Ah, c'est marrant.
Non, moi personnellement, en plus parce que je peux pas faire de jazz.
Oui, ça en a bien compris.
Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que. Alors, il y a une différence entre faire de la musique et écouter de la musique, tu vois. Ouais. J'en parlais avec un journaliste l'autre jour qui parlait de ma position et qui la comparait à lui sa position en tant qu'auditeur. Et c'est pas pareil. Bien sûr qu'on peut écouter tout et on peut partager tout et voilà. Mais là, moi, j'ai une responsabilité en tant que musicien, qui plus est en tant que musicien qui a un auditoire. Une audience. Et je pense que ouais, t'as une petite responsabilité. C'est pas parce que tu peux que tu dois le faire. Après, je bredouille hein, cette réflexion politique, et peut-être que c'est encore un peu maladroit, mais non, c'est pas parce que je kiffe la musique funk qu'il faut que j'en fasse.
Mais du coup, il y a un vrai blocage où tu te dis, je ne dois pas le faire, tu vois. Enfin, je veux dire, parce que tu pourrais très bien. en travaillant comme ça, en posant des accords, des machins, de tendre vers
waouh, wow, oh merde, c'est trop funky vite.
Non, mais
ouais,
tu vois,
undo,
genre,
undo.
Là on a ça va, non, j'ai fait du funk aujourd'hui,
mais
ça va,
le funk accidentel,
oh non, non, mais bien sûr, mais même en fait en vrai elle est où la limite, c'est-à-dire que moi mes rythmiques de mon dernier album, elles sont clairement issues d'une écoute de hip-hop, et c'est, tu vois, ma manière de placer tout ça. En vrai, c'est déjà, si tu changes la voix, ça peut être déjà du hip-hop, tu vois, mais mais elle est où la limite, c'est ça. C'est à quel moment t'es vraiment dans la funk, à quel moment t'es ou dans le funk, et à quel moment t'es pas encore dedans, je sais pas. Ça, tout ça, c'est à débattre. Et je pense que voilà, le risque de parler de musique, c'est d'être trop général et de pas prendre les choses cas par cas. Et dans ce cas-là, mieux vaut parler d'un morceau précisément et de le décortiquer ensemble. Mais ouais, c'est ma position. On en est arrivé là, mais c'est un peu ma position en ce moment, de genre, ok, ben justement, quelle est ma position moi, en tant que que artiste, quoi.
En tout cas, je pense que se poser des questions, c'est toujours bon. Ouais. Trop figé, ça, c'est rarement bon d'ailleurs, mais il faut toujours dire, c'est en perpétuelle évolution, c'est voilà, au fil des rencontres, du temps aussi, tout simplement, de ce qui nous entoure, etc. C'est normal, tu vois.
Non, et puis, c'est vrai que l'époque change aussi, mais tu vois, je me dis, moi, quand on parle d'appropriation culturelle, je pense toujours à Johnny Clegg, tu vois. Ouais. Le Zoulou blanc, quoi. Le mec, t'as tout un putain de continent qui fait de la musique et le seul qui pète à l'international, il est blanc. Tu te dis, waouh, quand même, enfin, tu vois.
Et lui, il est pétri de bonne intention.
Mais de fou,
lui,
mais c'est ça.
Il va, dans sa tête, il va au paradis, y a pas de souci, parce que à aucun moment il a pensé à mal. Mais c'est ça le problème, en fait. C'est que je questionne même pas l'intention des artistes qui font les trucs, tu vois.
Que généralement, c'est des bonnes intentions.
De fou. Et puis, de fou.
Enfin, Johnny Clegg, je pense que, ouais, lui, il a tout plaqué.
Je pense que les trois quarts des recettes, ça allait à des assos. Ouais, enfin, j'en sais rien, peut-être que là, je fantasme. Mais ce que je veux dire, c'est que ses rapports avec, justement, les artistes indigènes dont il promulguer la musique était sans doute des vrais rapports, c'était intense, tu vois, genre personne dans la chaîne était en mode il y a
se
un pépin,
nous,
c'est plus avec 15 ans 20 ans de retard, tu regardes les dynamiques, tu vois, tu regardes voilà, bon, on va revenir sur une question des blancs qui s'approprient les cultures minoritaires, mais voilà, c'est,
et d'un autre côté, ça a permis aussi à cette culture là Zoulou notamment d'être identifié. Alors qu'avant, ça serait peut-être resté un phénomène un peu localisé et connu que des vraiment intéressés, sachants, etc. Alors que là, Asimodanga ou Scatterings of Africa, même une grand-mère du Nebraska, elle a pu l'entendre en se disant, tiens, c'est marrant cette
musique. Après quoi ? Et après, en fait, c'est aussi ce truc de t'es identifié, mais qu'est-ce que ça alimente comme discussion et comme échange culturel, tu vois, genre moi, j'ai un peu de, je vais pas à la télé hyper naturellement et de manière très enthousiaste, parce que j'ai l'impression qu'à un moment, quand tu vas à la télé, ben les gens, ils te connaissent parce qu'ils t'ont vu à la télé, et c'est tout, ça s'arrête là. Je sais, une fois j'ai accompagné Jeanne Haddad sur un Taratata, donc c'était sans doute l'émission musicale la plus grosse que j'ai faite, et ben après il y avait des gens qui sont venus me voir pour me dire, ah, je t'ai vu à Taratata, et j'étais trop bien, et mais la discussion s'arrête là. Donc en fait
Ouais, tu veux pas être placé malgré toi dans une case où
Je crois que ce que je veux, c'est que ça alimente une discussion. Bon, après, tu vas pas avoir une super discussion avec quelqu'un juste que tu croises dans un festival ou dans la rue, mais qu'est-ce que ça crée derrière comme terrain pour la culture, tu vois, ou pour l'échange autour de la culture, je sais pas. Bon.
C'est très intéressant. On a bien compris que de toute façon, que t'es en pleine réflexion.
Ouais, ça m'a stressé un peu de parler de tout ça.
Bah ouais, parce que c'est des sujets compliqués, mais je crois que tu les abordes avec humilité.
C'est cool en fait de se dire que on n'est jamais vraiment arrivé et que tu vois, même quelqu'un comme toi qui a un parcours avec des albums et des morceaux de 23 minutes, en fait, tu poses encore des questions et t'as jamais complètement finalisé la réflexion. Je trouve ça trop cool, en vrai.
Carrément. Tiens, d'ailleurs, j'ai envie parce qu'on parle d'albums. Qu'on s'écoute, alors il dure 15 minutes, mais le titre Dans 100 ans, qui est sur l'album Dans 100 ans, parce qu'on voit un truc que tu fais sur chacun de tes albums, qui domine pas tout, mais c'est, On n'a pas parlé de musique progressive, par exemple, ce que tu pourrais qualifier en fait ta musique,
ouais.
Et notamment sur ces morceaux très longs, et où à des moments, bah, tu te rapproches des musiques que toi tu considères comme plus académiques, musique répétitive, voire musique classique, etc. Mm-hmm. Et je trouve que c'est un bon exemple dans son temps. Et après, on en parle un tout petit peu.
Ouais, carrément. Let's go.
Bon, ça dure 15 minutes, alors j'avance tout de suite.
Ça, il y a une. Il y avait la sonnerie des quais de métro parisien, là.
Quand j'allais le dire.
Ouais. C'est ce qu'ils mettent quand ils te voient en chelou. En fait, j'étais en train d'enregistrer une aération.
Ouais.
Qui faisait un bruit monstre. Et donc, je l'enregistre. Ça faisait vraiment un drone super beau avec une note précise. Et je pense que quelqu'un m'a vu
sur la caméra.
Et a enclenché la sonnerie. Genre, c'est la sonnerie des graffiteurs, en fait.
Ah oui, parce qu'ils voyaient pas ce que tu faisais.
Ils voyaient pas ce que je faisais. Ils disaient, il y a un mec qui fait un truc bizarre.
Il prend du son, c'est un truc et tout.
Qu'est-ce qu'il fait?
Composer joyeusement. Sur cette photo bleutée.
J'avance un petit peu pour qu'on constate l'évolution. Quasiment. Et ça se termine comme ça.
Ah ouais.
On prend le thème ta 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 et ça on le reprend après avec un.
Alors là j'imagine
un ensemble de vent.
Parce que voilà, parce qu'on parlait de ton processus créatif et ce sera la dernière question autour de ce sujet. C'est tu t'entoures quand même parfois justement de gens. Là c'est un vrai orchestre qui joue avec
toi.
Ouais,
c'est des vrais instruments avec un. Oui, j'ai fait appel au même Jérémy Arcache, au même arrangeur qui avait travaillé avec moi sur les cordes de Contretemps, le morceau éponyme du disque d'avant qui finit par un quatuor à cordes. Et là c'est pareil, c'est un ensemble avant. Donc moi je compose soit là c'était en gris midi du coup, mais je compose aussi avec des trucs de voix, des harmonies et tout ça, puis après je donne mon fichier à un arrangeur qui m'aide à le mettre sur une partoche et à le faire un peu cohérent, parce qu'il y a des moments où il y a des notes, c'est pas vraiment, en fait tu peux pas dire une note, c'est entre celle-ci et celle-ci, il y a des instruments, faut quand même que tu leur donnes un truc clair, or parfois des accords un peu c'est bizarre, et donc il m'aide à rendre le truc
plus clair, ouais.
Et donc en fait ouais, plus clair en tout cas, plus clair, même dans un genre musical, c'est-à-dire que si tu changes une note, ton accord, il est plus du tout le même. Et qu'est-ce que tu racontes de cet accord-là à cet accord-là? Est-ce que tu racontes le baroque ou est-ce que tu racontes la musique répétitive américaine? Enfin, je sais pas, tu vois. Et donc, ces trois morceaux, en fait, pareil, éponyme, ils traversent différentes étapes qui sont un peu comme différentes étapes de la musique elle-même. Pour revenir aux instruments qui sont là depuis bien avant nous, donc dans notre cas là, dans son temps, des instruments avant, des clarinettes basses, des cors anglais.
C'est un truc que tu te serais permis ça au début de ta carrière ou que t'aurais imaginé?
Franchement, c'est un fantasme que j'ai depuis archi longtemps. Et puis ça m'a débloqué aussi de faire l'album avec Pomme, parce que justement on a fait des arrangements pour vent aussi. Et en fait, le vent, les bois, c'est des instruments qui ont à peu près une tessiture rapprochable de la voix. Okay. Donc en fait, quand j'enregistre des orchestrations imaginées, j'utilise ma voix, et ça ressemble encore plus que si j'utilisais des violons qui sont beaucoup plus aigus. Voilà.
On termine, il nous reste 10 minutes.
Wow.
Peut-être que, je sais même pas si on fera les recos, c'est pas grave, parce que t'as une journée chargée, malheureusement, t'es attendu ensuite. Mais 10 minutes.
Malheureusement pour lui, quand même.
Malheureusement pour nous. Moi, j'aurais aimé discuter encore plus longtemps.
Surtout que là, je me suis fait mon petit stress de parler de politique, du coup, là, j'ai parler de trucs. Ah, j'avais les mains froides et tout. Ouais. Ça m'a
Non, c'est parce qu'il fait froid ici aussi.
C'est qu'il fait un peu froid.
Ah oui, d'accord, c'est ça.
Bah, c'est un sujet, alors, qui est moins politique, mais qui peut être complexe aussi, c'est celui de l'industrie musicale.
Ah oui, très bien.
Terminons là-dessus, sur cette dernière partie, parce que c'est un truc qu'on dit souvent dans cette émission, un artiste, souvent il a besoin d'être entouré, il navigue dans un univers compliqué, entre gestion de droits, entre labels, distribution, où va être Mima, il faut faire parfois presser des vinyles, etc. C'est tout un univers, il faut tourner, il me faut un booker peut-être.
Ouais, ouais.
Toi, ça s'est passé comment? Parce que t'as eu une grande chance, c'est que très vite t'as rencontré ton label Pan-European, qui j'imagine t'a accompagné dans tout ça.
Ouais, de fou.
Comment ça s'est passé? Quel rapport t'as à tout ça?
Donc, je rencontre Arthur et on signe très vite un contrat d'artiste. Okay. Et j'ai signé des contrats d'artiste jusqu'à aujourd'hui. Là, je suis en train de finir mon dernier contrat d'artiste.
Alors, on précise, sachant que le contrat d'artiste, en théorie, est celui qui offre un petit peu moins de liberté. T'es beaucoup plus accompagné dans le processus artistique par le label. Mais par contre, t'as des moyens mis à ta disposition aussi.
Bah, disons que je partage tout. C'est-à-dire que les droits du master sont partagés à 50-50 avec le label. Donc, tout ce que je fais appartient à moitié au label. Pour la vie et pour après ma vie. Ça, c'est un truc... ah ouais, ouais. Le contrat... Enfin, les deals de droits master, enfin, de droits phonographiques, c'est... on en parle, mais on sait pas trop et tout. En fait, c'est hyper important de rappeler que quand tu partages... tes droits master avec un label, c'est pour l'éternité, en fait. Donc, c'est-à-dire que c'est après ta mort, et après, il y a des histoires avec tes gamins et tout, si t'as des gamins, bon, c'est...
On précise juste, parce que c'est important, c'est le master, ce qui est gravé, l'audio qui est gravé, mais par contre, la composition, elle reste tienne, etc., tu peux l'exploiter différemment.
Parce ouais, que c'est important aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui, on fait des disques. Ouais, tu vois, c'est-à-dire... Enfin, bien sûr, et puis moi, je dis pas qu'il y a de problème, mais je rappelle que pour des artistes qui composent des morceaux et que en fait moi ça aurait pas de sens demain de réarranger tout mon album avec des guitares sèches, parce que c'est pas comme ça que je compose, je suis pas songwriter, tu vois. Et puis dans la musique il y a aussi les mots, c'est-à-dire que les mots ils appartiennent aussi au label, puisque ils font partie intégrante de la musique. Donc voilà, donc je signe un contrat d'artiste assez rapidement, et à côté de ça, bah, l'éditeur, donc celui qui va gérer les droits de la musique au-delà du phonogramme, c'était aussi la boîte d'édition de mon label, c'est toujours le cas. Et donc ils investissent comme ça, ils investissent l'argent nécessaire pour fabriquer mes disques, donc avec les moyens, c'est-à-dire par exemple le travail de mixage, si j'ai besoin d'instruments, voilà. Moi je suis pas payé en tant que tel, mais tout le temps que, enfin justement le temps que je passe à composer n'est pas payé, mais tous les trucs en plus qu'il faut investir, le label me l'avance, puisque c'est des avances. Et ensuite, il y a le côté live dont tu parles, qui est que moi j'ai fait, quand j'ai sorti mon premier maxi, Gilded Glaze, en 2014, j'ai fait un an des concerts tout seul. Concert, lapsus, vous verrez pourquoi. Et donc, de gig en gig, des gens à la fin du concert me disaient « Bon, bah tu veux pas venir jouer dans mon bar, dans mon petit festival, dans mon truc et tout. » Donc j'ai fait ça pendant un an, et au bout d'un an, en fait, ma grande sœur, elle était tourneuse. Et elle m'a proposé, à l'époque elle était dans une boîte qui s'appelait Alias, qui faisait pas de développement, c'est-à-dire qui prenait pas d'artistes non confirmés, et elle m'a proposé de me tourner, quoi. Et donc j'ai fait une première tournée, et ensuite on a bougé ensemble avec un autre tourneur, mais toujours tous les deux, et c'est toujours elle qui s'occupe en fait de mes tournées, quoi.
Tu as utilisé des termes qui sont ceux de la filière, hein, de phonogramme, etc. Tu as l'air d'avoir conscience à peu près de comment sont gérés ces droits. Ça a été un apprentissage douloureux, difficile.
Je suis hyper bien entouré, parce que il y a aussi une personne dont je vous ai pas parlé, qui est ma manageuse, qui est. Bah, chaque personne est très importante, mais disons que le management, quand ça se passe bien et quand le manager ou la manageuse a les clés, il faut vraiment qu'il y ait une relation de confiance qui se passe, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses qui sont partagées, quoi. Donc là, vous avez vu Fanny. En fait, maintenant, j'ai deux manageuses qui se partagent le travail sur mon projet. Mais assez rapidement, Elodie, ma manageuse, elle travaillait justement chez Pan European, et je lui ai proposé d'être ma manageuse. Au début, elle voulait pas, parce qu'il y avait un espèce de conflit entre le label et un des artistes du label. Qui, s'il y avait conflit entre le label et l'artiste du label, bah, elle allait être au milieu de... Ouais. Parce qu'elle servait aussi le label. Et puis en fait, il y a pas eu de conflit, il y a jamais eu de conflit, et elle a accepté assez vite, et puis on a travaillé ensemble. Donc ça, c'est important. Moi, mon écosystème, il est hyper sain jusqu'à aujourd'hui, en tout cas. C'est-à-dire que j'ai une confiance en tous les gens avec qui je travaille. Et donc c'est donc ce label, Pan European Recording, incarné par Arthur Péchaud, mon management qui sont Elodie et Fanny, et puis mon tourneur, et donc tous les gens qui s'occupent de rendre possible ma tournée, quoi.
Et donc ton tourneur qui est ta sœur.
En fait, c'est ma sœur qui bosse pour une boîte qui s'appelle Talent Boutique, ouais, qui est une filiale de Corrida, Et avant, c'était Alias.
Ouais.
C'était
un... Mais en fait, du coup, ça veut dire que c'est parce que ta sœur a changé de boîte que...
Que je l'ai suivi. Ouais. Ouais. Alors, c'est intéressant parce que avant de travailler avec elle, je comprenais pas son travail. Enfin, vraiment, c'est.
Ok.
Je suis productrice de spectacle. Ok, mais tu fais quoi dedans? Tu fais la basse. Tu vois? Et après, j'ai compris et je comprends de plus en plus. Et c'est une drôle d'industrie qui est assez bizarre, assez dynamique en fait. Donc voilà, c'est ça. C'est-à-dire que les gens avec qui je travaille, c'est des gens avec qui je partage mon quotidien, quoi. Je me méfie du mot famille parce qu'on peut y voir du bien comme du. C'est ma famille, ça veut un peu rien dire une fois. Mais ouais, en tout cas, c'est un écosystème où la vie de chacun, chacune qui m'entoure est hyper important.
Est-ce que c'est.
La vie. Un avis.
Bah,
la vie, en fait.
Les deux, ouais. C'est...
On fait de la poésie.
Non, mais il y a eu un autre lapsus marrant. La dernière fois, j'étais au téléphone avec une journaliste. Et du coup, j'étais long, un peu comme là. Et on parlait. Et je lui disais, voilà. Elle me dit, d'accord. Donc, elle me dit, donc, pour conclure, le temps, c'est cool. Et j'ai entendu, le temps, c'est cool. Et j'étais, génial. Mais oui, c'est trop ça. C'est ça, la conclusion. Elle me dit, non, le temps, c'est cool.
C'est cool.
Ah ouais. Oui, pardon, ça, c'est cool. Okay.
Ah, c'est beau, hein. C'est beau.
Quand tu travailles avec des gens, parce que tu écris aussi pour d'autres personnes, si je dis pas de bêtises. Ça t'est déjà arrivé, non?
Je crois que ça m'est arrivé une fois.
Ouais. Ou quand tu co-réalises, par exemple, avec l'album de Pomme, etc. C'est juste le truc, voilà, c'est de la rencontre humaine, ou c'est aussi, mine de rien, pour vivre de sa musique, il faut multiplier les activités, il faut s'ouvrir à d'autres choses, peut-être choper un peu de synchro, peut-être choper, si je suis crédité pour tel truc, ça me fait une source de revenus supplémentaires aussi. Il y a cette réflexion aussi chez toi.
Prenons le cas par cas. La collab avec Pomme, c'est vraiment une rencontre d'amitié de fou. Ça démarre sur une discussion un peu sur Instagram. On se met à faire un morceau ensemble à distance. C'était la fin du confinement, c'était septembre 2020. On fait un morceau à distance, trop fun. Et puis après, on fait des concerts ensemble un peu. Et puis après, en fait, ça clique. Et elle me dit, viens co-réaliser l'album avec moi. Et on s'entend super bien, super copains. Et donc, je pense que si je m'étais pas entendu avec elle, j'aurais pas fait ce projet-là. Enfin, on l'aurait pas fait tous les deux. C'est ça ce que je veux dire, c'est que les personnes avec qui je travaille en musique, pour la quasi-totalité, deviennent, si je les connais pas très bien, la musique c'est un espèce de, dans mon cas, c'est un partage tellement bizarre et intense, parce qu'après en plus t'as fait un morceau qui existe dans la vie d'autres gens que toi, que ça crée d'une certaine manière une espèce d'amitié.
C'est une porte d'entrée en fait pour construire quelque chose.
Ouais, mais qui te lie avec des espèces de crochets qui n'existent pas forcément dans d'autres relations d'amitié, je dirais hors musique, quoi. C'est le cas avec Bonnie Banane où en fait quand on a fait notre morceau ensemble, on se connaissait vraiment pas très bien, quoi. Et grâce à ce morceau, il y a plein de choses qui nous ont liés et aujourd'hui, je la considère vraiment comme une amie proche, quoi. Pareil pour Jacques, après gagner sa vie, ça dépend en fait. C'est moi, je veux pas gagner ma vie pour gagner ma vie. Si j'ai besoin de sous pour un projet, dans ce cas-là, je vais accepter de faire de la musique pour le capital, tu vois, d'aller faire une musique de pub pour une marque. Ah oui, j'ai déjà fait des musiques de pub pour des marques, ouais. On a déjà fait une pub pour Lego avec Jacques. Moi, j'ai déjà réarrangé une musique pour Chanel, pour la pub de Chanel numéro 5. C'est des trucs, quand j'ai un projet et que je sais que je vais avoir... Et puis, je suis pas attiré par la musique de pub, mais après, c'est souvent aussi des projets intéressants parce que t'as des moyens qui se décuplent et tout à coup, t'as un orchestre, t'as un truc que t'aurais pas. Et donc, en fait, ça t'apprend aussi des outils pour d'autres choses. Et puis, ça te met dans le viseur aussi des idées que t'aurais pas eues si t'avais pas fait ces trucs-là. Donc, je refuse pas absolument le marché musical, mais c'est vrai que je ne crois pas en l'idée de carrière. C'est un mot qui me... Je crois pas dans les plugins et je crois pas dans la carrière, quoi. Je crois à la pratique, c'est-à-dire que chaque pierre que tu fais, elle est cohérente par rapport à la pierre d'avant. Mais c'est pas monter les échelons pour être de plus en plus connu, pour un moment être indétrônable. Ça, j'y crois pas du tout. Donc, je fais pas de projet. Tu vois, il y a sans doute des artistes très connus qui pourraient me proposer de faire des trucs et si j'aime pas leur musique, ça m'intéresserait pas, quoi.
Il n'y a pas quand même l'idée, c'est pour parler un peu vulgairement, de coffret. C'est-à-dire de se dire, il y a un moment aussi où il faut que je m'assure un avenir. Une carrière artistique, ça peut être éphémère.
Et ah que, bah, c'est pas
que,
grave.
Faut que je pense. Ouais.
Ah bah non, bah non. Du coup, là, pour le coup, je crois qu'on verra. Hein. On se reparle dans 20 ans. Mais si. Je ferai toujours de la musique, j'en ferai de la musique, tu vois. Comme du quilt, tu vois, comme du tricot ou comme du.
Comme du savon, et comme ça va nous plaire.
Comme du savon. Ah oui, bien, ouais. Oui, et le savon, non, au contraire, c'est le projet le plus marchand que j'ai jamais fait.
Parce qu'il veut dire que tu le vends à la fin de tes concerts, ouais. Tu veux plus faire de merch classique, notamment pour des raisons écologiques, etc.
Ouais, surtout. C'est surtout parce que je veux plus faire de merch, je veux plus faire de vendre des t-shirts, en gros, qui sont faits en Afghanistan et sur lesquels je fais une plus-value parce que c'est comme ça qu'on fait de l'argent.
Donc tu vends des savons à la
Donc
place.
Je vends des savons que je fabrique, et je les fabrique moi, et je les vends que sur le lieu de mes concerts. Et on pourra parler de la technique de la saponification. Mais je sais plus comment conclure ce que je voulais dire.
Excuse-moi, je t'ai coupé.
Non,
c'était sur l'idée de coffret et tout.
Ah oui, coffret. Ah oui, ouais. Et donc je ferai toujours de la musique, mais s'il faut que je change de métier et que je fasse un autre truc, je le verrai pas du tout comme un échec, quoi, tu vois. Vraiment pas, parce que... Ouais, je sais pas comment dire. C'est peut-être encore mon côté un peu privilégié qui dit ça. Ou bon, bah.
T'es pas inquiet, ouais.
En tout cas, faut pas faire de la. Enfin, je veux pas être un vieux rocker.
Ouais. Tu veux pas faire de la musique pour les mauvaises raisons et t'accrocher au truc.
Ouais. Et non, je veux. Je préfère plus faire de la zik et que c'était bien.
Ouais.
Plutôt que commencer à tirer la corde sur un truc qui ah mec, vas-y. Tu vois, c'est pour ça aussi que je pourrais pas faire la musique que je fais tout le temps. Je pense que tourner des potards et faire lever des mains et faire un peu le crooner par-ci par-là, je peux pas faire ça toute ma vie.
Ouais, mais tu proposeras autre chose, enfin voilà. Artistiquement.
De toute façon, et on va conclure là-dessus peut-être, parce qu'après on va nous en vouloir si on te rend en retard.
D'accord.
Si on te rend en retard, carrément.
C'est le projet.
Oui, on le rend en retard.
On a la bourre.
Non, c'était une forme de trilogie, ces albums dont on a parlé, et que là tu as le sentiment d'avoir fini cette trilogie et passer peut-être à autre chose dans le futur. Je suis curieux de découvrir ça d'ailleurs.
Ouais, moi aussi. Hein. Je suis un peu mis dans la merde.
Et ben, merveilleux.
Ouais.
Flavien.
Bah, merci.
Un grand merci. Ah, j'aurais adoré que ça dure encore une heure plus, mais.
Satané Radio France.
C'est comme ça. Un grand merci à toi d'avoir pris le temps de venir nous voir. Un merci à Fanny aussi. Merci évidemment à la team La Bouclette, bien Flavien, sûr. Iris, Sam. Merci aussi à François.
Oui, il y a un autre Flavien, ouais.
Oui, absolument.
Oui.
Merci aussi à François,
coup,
évidemment,
pour
le
montage. C'est quand notre fête? C'est quel jour notre fête?
Ah, ça demande la fête. Est-ce que tu sais, Flav? Il a aucune idée.
Ouais, c'est comme Fabien, quoi.
Non. Tu penses que c'est le même
non.
jour?
Ah, merde.
Tu dis jamais ça à Fabien. T'es fou.
Un grand merci aussi, évidemment, à Thoman. Est-ce que tu achètes chez Thoman?
Ouais.
Les PlayStation, notamment.
Les PlayStation, notamment, pour faire de la musique, évidemment. Tout est à vendre chez Thoman. On trouve tout pour faire de la musique.
Ah, tu le dis, carrément.
Ah, on nous dit que c'est le 25 mai, les Flaviens, qu'on les célèbre. Ah non, il est pas.
Moi, non, c'était le 18 février.
C'était le 18 février. Enfin,
c'est le même jour que la Saint-Bernadette, normalement.
Saint-Bernadette.
Ça se bagarre les jours.
On termine.
25 mai.
On termine sans les rocos, les amis, parce qu'on n'a pas le temps. Mais je propose de mettre un extrait. Normalement, on met toujours un extrait. Chacun choisit un morceau. On fait une recommandation musicale. Oui. C'est trop cool. Puis on fera ça en mode commentaire ou un truc comme ça.
On sera d'accord, le dernier album d'André 3000.
Ah, on en a parlé. On en a parlé dans un épisode récemment. Absolument.
J'ai trouvé ça très cool, effectivement.
Ah ouais.
Mais sinon,
et ça marche avec les morceaux de 15 minutes en fait.
Atmosphérique. Quel bonheur.
Ouais.
Moi, ce que je peux recommander, c'est globalement d'aller se plonger dans la discographie de Flavien, parce qu'il y a plein de trucs intéressants, honnêtement.
Il y a d'autres trucs qui vont venir de toute façon.
Et tu sais quoi, même, je te le dis honnêtement, moi, je connaissais évidemment ton travail avant, c'est pour ça que j'avais envie de te recevoir, que j'appréciais, mais en fait, j'ai découvert beaucoup de choses parce que j'avais pas digué plus que ça. Et en fait, je trouve que t'as une carrière intéressante globalement. Tu vois,
même si t'aimes pas ça.
Non mais je trouve que ça vaut le coup. Il y a des gens qui aimeront plus certains, mais il y a une vraie liberté en fait, je pense, dans ton approche de la musique globalement, et que ça vaut le coup d'aller picorer. Et tu vois, je propose par exemple pour le générique de fin, on met un extrait de La Friche, parce qu'il est très cool cet album. 20h, ça te va? 20h
20h de La Friche.
On se retrouve dans 15 jours. Ciao. Thank you.